Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Entreprendre dans la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Pour la toute première fois, dans ce podcast et en partenariat avec la Fédération française du prêt-à-porter féminin, nous vous proposons 3 épisodes hors série sur le financement des marques de mode. C'est une première. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Vous écoutez le 3e épisode de ce hors-série sur le financement des marques de mode. Après avoir couvert dans les 2 premiers épisodes la phase d'amorçage et d'accélération, aujourd'hui on parle plus particulièrement du financement par l'equity ou par la levée de fonds en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on s'y prend? Qu'est-ce que les fonds regardent dans les marques? Qu'est-ce que les marques doivent regarder dans les fonds? Qu'est-ce que conseille la fédération? Comment évolue le marché? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec autour de la table 3 personnalités influentes du monde de la mode. Pierre-François Lelouette, président de Nelly Rodi et de la Fédération française du prêt-à-porter et de Nelly Rodi Moneybox. Frédéric Bius, cofondateur de Experience Capital, président de Experience Capital Management. Et Guillaume Gibaud, fondateur et président de la marque Le Slip français. Bonjour à tous.
Bonjour.
Salut. Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement en 5 phrases maximum pour vraiment recontextualiser un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? On commence par le plus ancien ou par le plus jeune?
Ouais, on va démarrer par le plus jeune, c'est plus facile à départager comme ça, il n'y a pas de débat. Donc bonjour à tous.
Je rêve.
Non, mais je vous laisse vous débrouiller entre vous comme ça. Donc bonjour à tous, moi c'est Guillaume Gibaud, j'ai 34 ans cette année bientôt. J'ai créé le Slip français il y a 7 ans maintenant, qui est une marque de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France. Avec une idée un peu folle, c'est que si on veut changer le monde, il faut commencer par changer de slip. Et on s'amuse beaucoup à imaginer une façon un peu différente d'inventer la mode, évidemment de la financer, on en reparlera. Et aujourd'hui, le Slip français, on est un peu plus de 100 personnes, on a fait 21 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, ce qui représente un petit million de pièces fabriquées et vendues, principalement sur Internet. Donc évidemment, on essaie d'être bon sur Facebook, sur Instagram et tous ces autres sujets. Voilà, mais on s'amuse bien, c'est une belle aventure et je suis ravi d'être là pour essayer de donner quelques clés à ceux qui nous écoutent.
Très bien. Ensuite, Pierre-François.
J'ai 80 ans. je suis le patron de Nelly Rodi depuis une quinzaine d'années, qui est une société qui fait du conseil en intelligence business et créative, essentiellement dans le domaine de la mode, de la beauté et des industries créatives en général. Mais je suis aussi président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. J'ai été élu il y a 3 ans. Et cette fédération rassemble à peu près 600 marques de mode partout sur le territoire français, des marques indépendantes, beaucoup de petites marques, beaucoup de marques qui vendent en wholesale ou qui vendent sur Internet, et beaucoup de marques qui sont confrontées bien sûr à des problèmes de financement.
Très bien. Et Frédéric?
Frédéric Bius, donc moi j'ai 25 ans fois 2 et en fait je suis un entrepreneur de la mode. J'ai repris et développé avec mon associé Licoubi et les 2 fondatrices Sandro Mache, Claudie Pierlot, qu'on a amené assez loin un peu partout dans le monde. Et puis quand j'ai vendu mes actions, j'ai décidé de créer une société d'investissement qui s'appelle Experience Capital, qui a vocation à investir dans des marques jeunes ou moins jeunes et d'être un accélérateur au service de ces marques. Voilà. Et aujourd'hui, on a un portefeuille d'une dizaine de marques.
Parmi qui? Parmi ces...
Alors, le Slip français, par exemple, ouais. Balibaris sur l'homme, Sessoun, Sir, Jimmy Fairly, le karaoké BAM. On vient d'investir dans une marque suédoise qui s'appelle Ella Bruckett de cosmétiques et Figaré, maison standard.
Très bien.
Parfait. Et NV Gallery, le make.com français.
Entendu. Pour commencer, pour démarrer la table ronde, une question peut-être un peu naïve, mais qui est importante quand même, mais c'est quoi une levée de fonds et pourquoi on fait une levée de fonds?
C'est moi qui démarre. peut-être pourquoi on l'a fait et après peut-être Frédéric, tu reviendras sur c'est quoi, j'en sais rien, ou je donne les deux. D'abord, je dirais pourquoi on l'a fait. En fait, dans ce métier, on est quand même un métier où on a besoin de moyens pour se développer. Avant tout, parce qu'on fabrique des produits pour les vendre. Alors, il y a des modèles un peu nouveaux qui arrivent à se passer de ça, mais quand même globalement, aujourd'hui, quand on est une marque de mode, on fabrique des produits, on a besoin de stock pour les vendre, même si on les vend comme nous principalement en ligne. On a quand même besoin d'avoir un fonds de roulement. On a besoin d'avoir du stock pour vendre et pour grandir. Et puis surtout, on a besoin d'investir. On a besoin d'un nouveau site web, de nouveaux mannequins, de shooting, de boutiques éventuellement. On a besoin de se faire connaître. Donc forcément, on a besoin de moyens pour grandir. Et donc, au début, on a arrive à se débrouiller, à tirer sur les délais fournisseurs. Vous en avez peut-être parlé dans les autres épisodes, j'imagine. On peut faire du crowdfunding, pas mal de leviers qui permettent de bricoler un peu au début. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si on veut vraiment grandir et passer un cap de maturité, de notoriété et peut-être d'ambition aussi, il faut des moyens plus importants. Les banques n'ont pas vocation à vous suivre sur tous ces leviers-là. Ils peuvent vous suivre sur l'investissement long terme, mais jamais ils vous suivront pour mettre de l'essence dans le moteur, jamais pour payer vos salaires, jamais pour payer vos stocks. Donc en fait, vous avez besoin d'actionnaires financiers ou en tout cas de trouver des moyens de vraiment mettre de l'argent pour grandir et des gens qui vont être capables de vous accompagner, de prendre des risques avec vous parce qu'il y a forcément une partie de risque. Hein. Mm-hmm. Mais en tout cas, une levée de fonds, c'est ça, c'est mettre de l'argent en échange d'actions dans une société, d'argent qui va permettre de se développer pour ces différents besoins que j'ai listés. Mm-hmm.
Moi, je vois trois raisons, toujours du point de vue du fondateur, hein, parce que j'ai vécu finalement les deux côtés de la barrière. La première raison, c'est ce que dit Guillaume, c'est on a besoin d'argent pour se développer, pour accélérer, pour capitaliser sur tout ce qu'on a fait. En fait, une bonne idée, c'est super, mais il y a des milliers de marques qui ont des bonnes idées et il n'y en a qu'une petite dizaine sur ces milliers qui vont vraiment éclore parce qu'il y aura eu la bonne idée, il y aura eu le bon manager, le bon moment, la chance, mais également l'argent. Donc une levée de fonds, c'est ça, c'est faire venir de l'argent pour se développer. La deuxième raison, c'est se sentir moins seul. Quand on est fondateur d'une marque et que ça commence à marcher, on est très seul. Plus ça grandit, plus on est seul. En fait, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et le fait de faire entrer un actionnaire à ses côtés, c'est l'occasion d'avoir quelqu'un avec qui on peut jouer au ping-pong, tester des idées, avancer, se sécuriser, se rassurer, se confronter. Et du débat naît un filtre qui permet de prendre des meilleures décisions. Et puis la troisième raison, c'est plus pour le stade d'après. Une levée de fonds, c'est mettre de l'argent, mais par moment, c'est aussi faire un cash out pour pour le fondateur. Et
à c'est mes quoi yeux, un cash out peut-être pour,
bah,
pour
à mes yeux, c'est très important quand on crée sa boîte à un moment donné de gagner de l'argent grâce à cela. Ouais. Et au début, on peut pas. Au début, on se paye pas. Ensuite, on se paye le SMIC. Ensuite, on s'augmente un petit peu plus. Ensuite, on réinvestit. C'est ce que fait Guillaume, il réinvestit tout ce qu'il gagne, il recrute des gens autour de lui, il s'entoure très très bien. Mais à un moment donné, je trouve que le travail mérite salaire et je trouve normal pour un dirigeant d'entreprise, à un moment donné, de mettre des sous de côté. Ouais. Et une levée de fonds, ça peut être l'occasion de faire rentrer de l'argent frais dans la boîte, mais également de vendre une partie de ses actions pour gagner de l'argent, s'acheter un appart, transmettre à ses enfants et c'est très important. Ouais.
Et juste rappeler peut-être le mécanisme du cash out pour qui soit.
Alors il y a deux façons en fait de nous fonds d'investissement pouvons prendre 40% d'une marque. Soit on prend 40% d'une marque en injectant de l'argent dans la société et donc on va dire qu'on met je sais pas moi 10 millions d'euros dans une boîte et à la fin on aura 40% de cette boîte avec à l'intérieur les 10 millions d'euros qu'on aura mis. Et ces 10 millions d'euros permettront de financer le besoin de fonds de roulement, la croissance, les stocks dont parlait Guillaume, des ouvertures de magasins, des développements d'acquisitions web, etc. Et puis l'autre façon de dépenser 10 millions d'euros, c'est tout simplement de dire bah, « moi j'estime que cette marque elle en vaut 20 millions, je mets 10 millions pour avoir 50%. » Et là l'argent va pas dans la boîte, il va dans la poche des gens qui nous cèdent leurs actions. Donc c'est deux choses différentes. Bien sûr, en tant qu'investisseur, on préfère une augmentation de capital parce que l'argent reste dans la société. Et puis il faut savoir que quand on investit, on n'aime pas trop que le fondateur s'enrichisse trop parce qu'on a l'impression qu'il va moins travailler. Mais moi qui l'ai vécu en tant que fondateur, en fait c'est faux. Quand on est attaché à sa boîte, on a toujours envie qu'elle se développe. Et même si on touche un peu de sous, bah, on reste toujours aussi motivé. Mais c'est quand même très important qu'un fondateur gagne de l'argent pour ce qu'il a créé.
Pierre-François, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais rajouter deux choses en fait. Il y a des différents moments pour faire des levées de fonds. Ouais. Et la levée de fonds, c'est pas non plus le. Il y a plein de raisons pour lesquelles il faut pas faire de levée de fonds. Et ça dépend sans doute des différentes étapes à laquelle on est aussi. Donc, un investisseur, c'est pas un magicien. D'ailleurs, j'aime pas du tout ce mot d'investisseur en général, parce qu'on a l'impression qu'il y a un côté un peu romantique derrière la figure de l'investisseur. Il y a celui qui a la bonne idée, puis il y a celui qui la finance en haut. Bah, en fait, je pense que ça fonctionne pas du tout comme ça aujourd'hui. Et que c'est comme le mot financier, c'est des mots qui sont vraiment complètement à proscrire aujourd'hui. Quelqu'un qu'on fait rentrer à son capital, c'est vraiment un partenaire, et donc il faut bien identifier ce que les gens avec lesquels vous vous associez peuvent vous apporter en dehors de l'argent qu'ils vont vous apporter. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose qui est extrêmement importante aussi à mes yeux, c'est qu'il faut pas faire rentrer toujours très très tôt des actionnaires. La première chose qu'un entrepreneur, à mon avis, là où il doit se concentrer, c'est surtout faire ses preuves, quoi. Faire ses preuves que son idée, elle est bonne, faire ses preuves qu'il peut rassembler une communauté autour de lui, y compris des gens qui ont envie de travailler à ses côtés, qu'il y a un produit, bien sûr, qui est juste, mais si le produit est juste, ça veut dire qu'il y a un marché derrière, se confronter au marché, enfin, tout ça est extrêmement important. Et j'entends trop de gens qui viennent nous voir en nous disant, voilà, j'ai une super idée, mais j'ai besoin d'un financier. Donc ça marche pas, parce que dans la mode, en fait, c'est assez facile de rentrer sur le marché de la mode, de se confronter à sa communauté, à Instagram, de développer un produit relativement facile et de donner la preuve que le produit marche. Donc les levées de fonds, ça vient, mais ça vient à partir d'un certain moment, je pense, et ça vient pas toujours tout de suite. Alors, il y a plein de contre-exemples, hein. Il y a plein de gens qui cherchent de l'argent pour amorcer leur business, etc. Mais je pense vraiment que dans l'univers de la mode, la première chose à faire, c'est d'abord de faire ses preuves par soi-même et avec sa team, plutôt que de se dire ça marche pas parce que j'ai pas de financier, ou ça marche pas parce que j'ai pas trouvé le partenaire qui va m'aider à mettre de l'argent dans l'histoire. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue.
Moi, je partage tout à fait. C'est vrai que dans la mode, et je pense que ça sera toujours vrai, il y aura toujours des nouvelles marques et toujours des façons d'émerger. Et Pierre-François a raison. Aujourd'hui, avec Instagram, gratuitement, on peut émerger. Ça a été le cas de plein de gens, hein, qui émergent avec peu de moyens et qui arrivent à vraiment fédérer des communautés, des équipes. Et c'est vrai que si on prend cette longueur d'avance de notoriété, tout ce qu'on peut faire de façon organique, gratuite au début, c'est d'autant plus de potentiel de déploiement quand on a des moyens. Donc le construire son identité avec peu de moyens et bricoler quelque part, c'est vraiment exactement ce qu'il faut faire au début, surtout aujourd'hui, avant de penser, c'est ce que je disais au début, avant de vraiment mettre le doigt dans quelque chose de plus costaud derrière avec une éventuelle levée de fonds.
En plus d'expérience, on est beaucoup plus créatif quand on n'a pas d'argent.
Ouais, c'est clair.
Donc c'est très important de passer par cette phase. Et même après, quand on a de l'argent, par moment, c'est très important de couper les budgets pour que les équipes redeviennent créatives. Notamment en communication, c'est hyper facile d'acheter des pages de pub. Donc le problème, c'est que ça ne suffit plus et c'est plus un média qui marche. Donc aujourd'hui, les marques qui émergent sont des marques disruptives comme le slip ou qui amènent un ADN hyper fort. Et ça, ça vient de la tête de l'entrepreneur, ça vient de la qualité de l'équipe et ça vient de la créativité de l'équipe.
Ouais.
Et c'est pas l'argent qui va amener ça.
Bien sûr. Vous parliez de la part de l'entreprise. Une part de l'entreprise, c'est quoi une part d'entreprise ?
C'est une part du capital. En fait, une entreprise, c'est une société. Cette société a des actions. Et donc, l'idée, c'est qu'un partenaire financier va venir et soit en augmentant le capital, donc en créant de nouvelles actions, du coup, il va détenir un pourcentage d'un capital plus gros. Il va rajouter de la farine dans le gâteau et ça va faire plus de gâteau. Ou alors, tout simplement, il va se couper une tranche du gâteau que l'un des actionnaires va lui céder. Il aura une part des actions. Le capital, c'est ça, c'est une part des actions.
D'accord. Et comment on valorise une entreprise ?
Alors, c'est beaucoup plus facile de valoriser une entreprise qui a déjà grandi, parce que là, il y a des méthodes. Généralement, c'est un multiple de ce qu'on appelle l'EBITDA. L'EBITDA, c'est plus ou moins le résultat d'exploitation, mais avant amortissement. Et donc, on fait un multiple qui peut aller de 6 à 12 ou 15. Ça dépend du secteur, de la qualité, de la résilience, de la verticalité de la marque, etc. Et donc, quand une marque commence à faire 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est assez facile. On prend l'EBITDA, on le multiplie, on regarde un peu les fonds de commerce et ensuite, on enlève la dette et on rajoute la trésorerie et ça donne ce qu'on appelle une valeur d'equity, une valeur des titres, qui est cette valeur sur laquelle on investit. Quand c'est une petite marque en création, là, on va plus valoriser sur du chiffre d'affaires, un multiple de chiffre d'affaires. Et puis, surtout, on va valoriser la qualité du fondateur en se disant la marque n'est pas rentable ou en tout cas, elle l'est à peine. Si je calcule ma petite formule, je vais tomber sur, 200 000 euros. Alors qu'en fait, ça vaut bien plus parce que il a fait les bons gestes, ça va payer. Et donc, on va un tout petit peu plus acheter le futur.
Très bien.
Mais il faut se dire aussi qu'au début, une marque de mode, je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que ça vaut très cher. Ça vaut pas très cher, malheureusement, une marque de mode. Ça vaut pas très cher parce que, comme le disait Frédéric, il y a plein de gens qui se lancent, il y en a peu qui réussissent. Donc, il faut pas non plus arriver en se disant, j'ai commencé, j'ai fait un peu de mes preuves, je suis passé par une première étape où, comme le disait Guillaume, faut mettre un peu de beurre dans cette boîte et la faire grandir. Donc je suis allé voir les copains, ma famille pour mettre un peu d'argent et passer à une étape supérieure. Mais après, quand on va voir un fonds, faut pas non plus dire que ça va valoir des fortunes parce que je fais 200 000 balles de 200 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà une grosse étape. Hein. Mm-hmm. Il y a pas tant de sociétés que ça qui arrivent après 2-3 ans à faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc les valorisations dans la mode, malheureusement, sont beaucoup moins importantes que dans la cosmétique. Frédéric le disait, ça dépend aussi des secteurs d'activité. Parce qu'on sait que dans la mode, c'est parfois un peu plus lent d'émerger et que ça nécessite justement pas mal de capitaux avant de devenir rentable, avant que ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que la mode, évidemment, ça peut aussi beaucoup rapporter.
Mais en fait, il y a assez peu d'investisseurs hein, qui investissent dans la mode réellement parce que ça fait peur. La mode fait peur, c'est très fragile. Donc on rate une collection, c'est très lié au fondateur, c'est très lié au styliste, au designer. Et en fait... Il y a assez peu d'intervenants qui investissent dans des marques de mode et encore plus dans des jeunes marques de mode. Donc finalement, le panel est relativement étroit. C'est sûr que si on regarde aujourd'hui d'autres secteurs comme l'ameublement, comme la cosmétique, comme l'entertainment, le food, là on est sur des valorisations qui sont plus élevées parce que aujourd'hui le marché estime que ce sont des secteurs qui sont plus résilients.
Donc, mais ça c'est cyclique ou c'est ça a toujours été comme ça?
Alors, ça a toujours été comme ça, mais c'est particulièrement comme ça en ce moment. Alors bon, moi j'ai fait Comptoir des cotonniers, Sandro, Maj, Claudie, à chaque fois les investisseurs me disaient mais il y a un risque de mode, ça nous fait peur, etc. Alors, on a construit, nous, la marque de telle façon qu'on dérisquait la mode. C'est l'ADN de la marque Sandro, c'est justement de dérisquer le risque de mode en collant à la mode. Donc, la mode change, bah, ma collection change. J'ai pas de sujet. Mais ça fait peur. Et ça fait peur, et particulièrement en ce moment où, finalement, les marques de mode américaines souffrent, le retail souffre aux États-Unis, souffre en France, ça fait énormément peur. Et donc, aujourd'hui, les investisseurs vont regarder ça de façon très étroite. Et ceux qui vont investir dans des jeunes marques de mode, ce sont des gens qui connaissent vraiment le métier et qui se disent « je vois quelque chose et je sais que je pourrais apporter, je pourrais l'accompagner ». Et puis, il y a d'autres marques qui sont des marques qui font de la mode, mais qui amènent beaucoup plus que de la mode. Et là, pour le coup, il y a plus de demandes. Pour moi, c'est typiquement le CIF français. Pour moi, le CIF français, c'est pas une marque de mode. C'est une marque globale qui amène beaucoup plus que ça.
Je rajoute aussi là-dessus, c'est le côté bancaire dont on parle pas forcément, c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais les banques sont assez frileuses à financer les marques de mode, ce qui justifie d'autant plus la levée de fonds peut-être plus tôt que dans d'autres secteurs, mais c'est vrai que c'est assez facilement un carton rouge d'être dans la mode, surtout effectivement en ce moment avec beaucoup de gens qui souffrent dans le métier, avec beaucoup de stocks et globalement un métier qui est très remis en question par pas mal de choses, beaucoup de marques, par internet, par le côté sustainable et durable de la mode. Donc il y a beaucoup de choses de fond qui font que le métier est pas évident.
Juste pour revenir sur la valorisation de l'entreprise, donc ça on a eu le point de vue du financier, mais quand on est une petite marque de mode, on est un jeune entrepreneur, on se tourne vers qui pour valoriser sa marque?
Je pense pas qu'il faille essayer de réfléchir à la valorisation comme une calcul mathématique, un calcul mathématique où il y aurait une bonne valeur. C'est plus essayer de s'approcher des bonnes personnes quand on se dit ok, quand on a bien abouti la réflexion, qu'on se dit ok, je veux faire une levée de fonds pour les bonnes raisons, pas parce que ça rassure ma grand-mère ou parce que ça va faire cool dans les journaux, mais parce que j'ai l'ambition, je pense que la marque peut le porter, parce que j'ai une équipe autour de moi et que j'ai envie d'aller plus loin et que je suis conscient de là où je vais. À ce moment-là, essayer de trouver le bon partenaire, c'est ce que tu disais à Pierre-François, c'est de dire qui peut m'amener des compétences au-delà des sous. Et puis une fois qu'on a identifié cette bonne personne, négocier comme on négocie tout ce qu'on fait hein, quand on achète ses produits, dans sa vie quotidienne d'entrepreneur, on négocie, ça fait partie du jeu. C'est presque une seconde nature, hein, et c'est comme ça qu'on arrive à grandir et à survivre. Donc, la valeur, c'est la meilleure valeur qu'on peut négocier. Faut partir de très haut et puis résister, quoi.
Il faut juste faire attention à une chose pour vraiment quand on démarre. Souvent, on se tourne vers sa famille, on se tourne vers ses amis, et comme on a vraiment besoin, on a tendance à lâcher pas mal. Et généralement, c'est ce tout premier tour qui est fondamental parce que finalement, il y a un fondateur qui commence à peine à jouer et qui n'a plus que 60 ou 50% de sa marque. On voit ça beaucoup, beaucoup.
C'est quoi un bon montant? Alors, une bonne
part? Idéalement, faudrait qu'il garde 80, quoi. Mais le problème, c'est qu'au tout début, quand on demande à sa maman de filer des actions, quand on demande à son cousin, à son ami, à n'importe qui, etc., c'est super sympa. Et puis, un jour, ça prend de la valeur. Et là, ça devient compliqué parce que finalement, la nature humaine est relativement greedy et donc très naturellement, les discussions sont plus les mêmes et on s'aperçoit que maman ne veut pas vendre. Nous, on voit ça vachement souvent dans les marques. C'est-à-dire la maman qui a aidé son fils, maintenant que ça vaut 40 millions, elle veut plus vendre. Et on lui dit, mais c'est quand même votre fils. Vous pouvez, vous avez quand même pas le bloquer. Non, mais moi, j'estime que ça vaut plus cher et donc je ne vends pas. Et donc, on est obligé de négocier pour le fils, pour que maman vende. Et donc, il faut faire attention à cela. Et pareil avec les amis. Il peut y avoir à un moment donné des conflits d'intérêts, etc. Donc, il faut être très prudent. Et il faut toujours se dire que quand il n'y a pas d'argent, tout le monde est d'accord. Quand ça commence à valoir de l'argent, c'est plus compliqué. Et donc, faut être très, très prudent. Et souvent, du coup, c'est beaucoup plus simple de le faire avec un seul partenaire financier dont c'est le métier. Parce qu'il n'y a pas ce côté affectif. Et finalement, on trouve toujours un accord.
On est toujours d'accord avec lui. Et de toute façon, avec son fonds d'investissement après, c'est ça?
Bah, oui. Objectivement, après, on est toujours à peu près d'accord. De toute façon.
Non, c'est extrêmement important, effectivement, de ne pas lâcher beaucoup de son capital au tout début. Là aussi, on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs qui nous disent, ben voilà, j'ai fait ça avec un associé, mais mon associé travaille pas dans la boîte et il a 49% des actions. Alors là, c'est le drame, parce que ça, c'est le premier tour, mais des levées de fonds, il y en a plein. C'est-à-dire que pour financer la croissance, tout ce rythme de développement, eh bien, il faut toujours remettre de l'argent. La rentabilité elle-même de la société ne suffit parfois pas. Donc, quand on est au premier tour et qu'on a déjà lâché 49%, ça veut dire que le fondateur, au bout du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, il va lui rester 15% de la boîte. Et ça, c'est pas possible parce que c'est évidemment pas extrêmement motivant. Donc, c'est très important qu'au début, celui qui a l'idée, l'entrepreneur qui mène le business, bien sûr, il faut qu'il s'ouvre parce qu'il faut bien trouver un peu d'argent quelque part. Mais s'il vous plaît, faut vraiment pas qu'il lâche trop au tout début.
Et donc, ce qui est important, c'est que le deuxième tour, juste après ça, quand vous faites rentrer un partenaire financier, il faut faire en sorte de racheter les minoritaires, les petits actionnaires du début. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu injuste parce qu'ils vous ont accompagné au tout début et vous vous dites « ça me gêne de les sortir maintenant », etc. Mais c'est des discussions qu'il faut avoir tout de suite parce que nous, en tout cas, c'est toujours notre stratégie. On va vouloir racheter les petits minoritaires parce que qui ensuite n'ont plus rien à faire parce qu'ils n'apportent rien pour trouver un moyen de reluer, c'est-à-dire redonner des actions au fondateur pour qu'il remonte au capital à nos côtés. Parce qu'un fondateur qui a plus de capital, c'est un fondateur qui est plus motivé. Et donc, nous, notre stratégie chez Expérience Capital, c'est de faire en sorte d'avoir des fondateurs motivés. Donc, on veut qu'ils créent de la valeur et pour ça, bah, il faut qu'ils aient du capital.
Et ça, c'est aussi une discussion que moi, j'ai toujours avec les sociétés dans lesquelles on prend des micro-participations dans Nelly Roddy Moneybox. C'est qu'au moment où je prends cette participation, je leur dis « à un moment, je vous quitterai ». Et souvent, les types me disent, mais non, faut pas me quitter, ça va être bien, on va continuer, etc. J'ai dit, mais pas du tout. Il y a un moment où vous n'aurez plus besoin de moi, vous aurez besoin d'autres choses, d'autres types de compétences, d'un autre type d'accompagnement. Il faudra absolument que, pour vous, que vous gardiez cette motivation et que vous gardiez cette partie du capital, que les minoritaires dont je fais partie aujourd'hui vous lâchent et que vous les lâchiez. Et ce sera souvent difficile parce que souvent, effectivement, il y a des minoritaires qui veulent pas lâcher, qui comprennent pas ça, mais qui comprennent pas que pour le bien de l'entrepreneur et pour le bien de l'entreprise, c'est important qu'on doit sortir, que ces minoritaires-là, qui ont pris une part du capital au tout début, doivent s'en aller pour laisser l'entreprise vivre sa vie et lancer sa croissance.
Comment on se protège de ça, justement? De cette discussion là que vous parliez tout à l'heure avec sa mère, avec son frère, avec son père, etc., qui ont pris 5% du capital, c'est quoi? C'est le fameux pacte d'actionnaires dès le départ?
Alors ça, c'est la façon juridique qu'on écrit. En général, il n'y en a pas de pacte d'actionnaires à ce premier tour quand on demande de l'argent à ses proches, quel qu'il soit. Déjà, ça coûte un peu de sous, hein. Très concrètement, on est jeune entrepreneur, on n'a pas envie de mettre les quelques milliers d'euros qu'il faut avec un avocat et puis on comprend pas très bien le sujet, hein, parce que un pacte d'actionnaires, c'est quand même assez ardu. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'être très 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 clair au début, de dire tu mets de l'argent dans la boîte, tu ne le reverras jamais. Peut-être qu'un jour, une bonne surprise fera que tu le reverras. Mais je prendrais plutôt les choses dans ce sens-là, de dire voilà, considère que tu me suis dans quelque chose qui va m'épanouir, qui est important pour moi. Je te dirai ce qu'il faut faire, fais-moi confiance, t'es pas obligé de le faire, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Mais voilà, d'être très clair dès le départ, parce que c'est sûr que c'est un peu risqué, je trouve, de mélanger sa sphère perso avec ce que peut devenir une boîte qui a un destin qu'on connaît absolument pas au début. Donc
comment tu l'as géré, toi, d'ailleurs?
Moi, j'ai eu la chance, et je pense d'être un cas un peu atypique, de démarrer très vite, très fort, sur un marché très récurrent, avec tout de suite une notoriété forte média. qui a fait qu'on a pu emprunter pas mal d'argent à la banque, en fait. Et je pense que, bah, Frédéric, tu me diras, mais je pense qu'on est un peu atypique, en fait, d'avoir réussi à fonctionner avec très peu de minoritaires ou d'argent de départ, en fait, parce que on est passé en un an et demi à plus d'un million de chiffre d'affaires. Donc, en fait, on est arrivé sur un premier élan, et je rejoins ce que disait Pierre-François, de notoriété, de bricolage, de délai de fournisseur, de bancaire, de crowdfunding. En fait, on est arrivé sur ce premier élan qui a duré deux ans et demi, trois ans. Au seuil critique pour faire un premier tour de table, en fait. Donc, en fait, on a un peu enjambé, je dirais, le premier tour, et j'ai pas trop eu à gérer ce sujet-là, mais en tout cas, je connais beaucoup de gens qui ont eu à le gérer, et même plus tard, avec les fonds, avec les gens qu'on fait rentrer, qu'on va associer au capital derrière, on en reparlera peut-être, d'être très très explicite, en fait, de dire les choses dès le départ, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles les boîtes s'arrêtent. C'est un, on n'a plus de sous, deux, on s'embrouille avec les associés au capital, quoi.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que faire entrer des gens à son capital, c'est une relation de couple. En fait, l'entreprise, c'est pas une question d'argent. L'association dans l'entreprise, trouver de l'argent, c'est hyper facile. Donc, en revanche, tomber amoureux de quelqu'un et coucher avec tous les jours, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça, une association. Donc, l'enjeu dans un couple, c'est de parler. C'est pas le contrat de mariage. Ça sert à rien. Et donc, le pacte d'actionnaires, c'est un contrat de mariage. Mais le pacte d'actionnaires, on ne le sort pas. Si on le sort en tribunal, c'est qu'on est dans une méga merde. Parce que on ne sort jamais un pacte d'actionnaires, on le range. L'intérêt du pacte d'actionnaires, c'est qu'on définit ce que chacun peut faire, quelle est son autonomie et quelles sont les étapes incontournables de la vie de l'entreprise et du calendrier dans l'année auquel on doit tous ensemble répondre, être présent pour trancher. Mais un pacte d'actionnaires, en dehors de ça, ça prévoit, voilà, qu'est-ce qui se passe si monsieur meurt, qu'est-ce qui se passe s'il est invalide partiel, qu'est-ce qui se passe s'il est invalide total. Enfin, franchement, c'est pas très drôle et ça n'a pas d'intérêt. Donc, le vrai pacte d'actionnaires, c'est la relation, c'est la confiance, c'est discuter. Et ce que dit Guillaume est très vrai. Ce qui est fondamental pour le fondateur, c'est qu'en fait, tous les fondateurs ont des histoires personnelles différentes et ils ont des buts différents. Et ce qui est essentiel, c'est de dire profondément quelles sont les aspirations. Moi, je veux créer ma boîte et je veux l'amener à 100 millions d'euros parce que j'adore ça et je ne vis que pour ça. Ou bien, moi, c'est pas ça. Moi, j'ai créé une boîte, mais en fait, tout ce que je veux, c'est gagner de l'argent et donc je vais la monter à temps et ensuite je veux partir. Ou bien, j'ai bossé comme un fou, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'aimerais continuer, mais je voudrais avoir quelqu'un à mes côtés qui dirige pour moi l'entreprise et moi, je veux me concentrer sur la création, etc. Et c'est en disant les choses que, résultat, votre partenaire de vie dans l'entreprise, va comprendre ce que vous voulez et va vous accompagner. Il n'y a rien de pire que découvrir, après avoir investi, que le fondateur avait un agenda caché. Et donc, il faut avoir le courage de dire les choses, parce qu'une fois que vous dites les choses et que vous trouvez votre partenaire qui comprend et qui vous comprend, ensuite, c'est parti pour très longtemps.
Juste avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais bien qu'on redéfinisse les différentes étapes de la levée de fonds. Et qui sont les différents acteurs auxquels on fait appel à chacune de ces étapes? Ce que j'ai en tête, c'est le niveau seed, la série A, la série B, etc. Et en termes de type d'investisseur, on parle de VC, de fonds d'investissement anciennement ISF, de family office, etc. Est-ce qu'on peut redéfinir un petit peu ces termes-là?
Je démarre. Je dirais qu'il y a une première étape qui est Love Money. Donc, Love Money, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment les gens autour de soi, donc la famille, direct ou pas direct, qui peut. Donc là, c'est vraiment les premiers milliers d'euros qu'on emprunte à droite à gauche, qui permettent vraiment faire les premières ventes. C'est vraiment le tout début. C'est un peu la phase aussi du crowdfunding en général. Vraiment, voilà, on fait les premières dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. On arrive à montrer qu'il y a un minimum d'intérêt. Là, on peut aller voir souvent des business angels. Donc, des business angels, c'est des gens professionnels. C'est pas des fonds d'investissement, c'est des personnes. C'est des particuliers qui vont mettre des tickets plutôt en dizaines de milliers d'euros, peut-être jusqu'à 5 ans, voire 100 000 euros. Donc là, on peut faire un premier tour qui s'appelle peut-être le tour de seed. Donc il y a eu ce Love Money qui est vraiment le tout embryonnaire autour de soi. Un premier tour de seed, quelques centaines de milliers d'euros avec quelques business angels. Il y a certains fonds qui font du seed, mais c'est quand même très rare. Enfin, c'est pas la norme, donc c'est plutôt des business angels. Et là, on arrive à une boîte qui faisait quelques milliers, dizaines de milliers d'euros avec le Love Money, qui arrive avec son premier tour de 200, 300 000 euros à arriver peut-être à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et quand elle arrive à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, Là, en général, si on continue sur cette logique et qu'on en a envie, on va avoir un premier, les premiers fonds pour faire un tour série A, qui est en général entre 500 et 2 millions d'euros, je dirais, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus. Non, je pense que c'est l'ordre d'idée, qui vous emmène à une croissance qui permet d'aller chercher peut-être 5, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ordre d'idée, qui permettent du coup derrière, si encore une fois on est dans cette logique, de faire un tour série B qui va être plus important, qui pourra faire entre 5 et 15, je dirais, et puis derrière on continue la logique avec c'est un peu plus rare en France et je pense dans la mode, mais des tours série C qui se voient plutôt sur de la tech, trucs comme ça, voire des séries D, des séries E aux États-Unis, mais voilà l'ordre d'idée. Et après, pour ce qui est VC, fonds d'investissement, donc VC ça veut dire venture capital, donc c'est capital risque. Pour moi, et je vous laisserai rebondir, mais les fonds ISF font partie de ça. En gros, il y a des fonds d'investissement qui sont dans lesquels il y a plein de types d'acteurs, mais c'est globalement des gens qui ont la même action toujours, qui est de mettre de l'argent en échange de parts du capital. Donc certains sont des fonds ISF qui ont des fonctionnements un peu particuliers, mais c'est le même principe. Et en fait, chaque fonds a sa politique d'investissement. Est-ce que je suis un fonds de série A, un fonds de série B, un fonds ISF qui doit sortir au bout d'une durée peut-être un peu plus courte, voilà. Mais c'est le même principe, c'est des fonds d'investissement. Juste sur ces différentes étapes que j'ai décrites, il y a des fonds différents.
Ouais, alors les fonds ISF, là je pense que c'est assez remis en cause avec la réforme de l'ISF, donc je sais qu'un fonds comme Audacia aujourd'hui est dans des situations plus compliquées. Ce qui est essentiel quand on dirige une boîte et qu'on l'a créée, c'est de, à chaque étape de sa vie, d'avoir le partenaire qui correspond à sa taille et à ce dont on a besoin. Donc si on est encore un peu petit, il faut surtout pas aller chercher un gros actionnaire comme L. Caterton, qui est indirectement lié à LVMH, parce que il va complètement vous crusher, parce qu'ils savent pas gérer ça. Et quand on est petit, eh ben on est fragile. C'est vraiment, on est comme un œuf. Et donc il faut faire très attention à pas casser la coquille. Et il faut vous travailler avec des gens qui vont comprendre ça et qui vont vous laisser éclore tranquillement et vous développer. Et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs séries. Et c'est pour ça que les fonds vont dire bon ben nous on spécialise plutôt sur les petites marques ou nous on spécialise plutôt sur les marques qui font plus de 50 millions, plus de 200 millions. Et à chaque étape de sa marque, il y a un type d'actionnaire. Donc les family office, en fait, ce sont pas des fonds d'investissement. C'est tout simplement un bureau qui gère la famille, la fortune d'une famille. L'avantage, c'est qu'ils n'interviennent pas beaucoup. Le désavantage, c'est qu'ils n'apportent pas beaucoup. Ensuite, les fonds d'investissement, ils vont demander beaucoup plus, mais ils vont être un petit peu plus intrusifs, mais en même temps, ils vont pouvoir vous accompagner plus. Voilà. Si nous, on regarde notre histoire sur Sandromage, on a démarré une valo d'entrée à 8,5 millions. Donc nous, on est rentré sur cette valorisation-là. 2 mois après, on a fait rentrer un family office sur une valorisation à 20 millions. Donc on leur a survendu ce qu'on allait faire compte tenu de ce qu'on avait fait avant sur comptoir. Donc on leur a mis un prix plus élevé. Ensuite, on a grandi. 3 ans après, on a fait rentrer L Capital, donc LVMH à 200 millions. On a grandi. Et là, LVMH nous a amené le fait de légitimer la sortie du sentier, de dire qu'on était une marque de mode et qu'on a ouvert aux États-Unis. Ensuite, on a vendu à KKR 2 ans après à 650 millions. Donc, c'est quand même allé très vite. KKR, c'est le roi du private equity, l'animal à sang-froid, tueur, le plus gros private equity du monde, donc le plus gros fonds d'investissement au monde. Très difficile au quotidien. Mais en même temps, ils nous ont tellement fait chier qu'on a ouvert partout en Chine, on a ouvert machin, et on a vendu à 1,3 milliard à des Chinois. Et les Chinois ont eu l'intelligence de laisser faire le management. Bon, moi, j'étais parti, là, déjà. Et ils ont introduit en bourse à 2,3 milliards. Bon, aujourd'hui, ça vaut 1 milliard, mais ils ont introduit en bourse à 2,3 milliards. Et donc, il faut faire très, très, très attention à avoir les partenaires qui vont nous comprendre. C'est ça qui est fondamental. Et encore une fois, c'est une relation de couple. On passe plus de temps avec ses collaborateurs ou ses investisseurs presque avec sa femme. Donc, il faut trouver les personnes avec qui on va partager non seulement l'argent, mais également la culture et le fit.
Et vous, Experience Capital, vous positionnez à quel niveau ?
Nous, ça dépend. Il y a Experience Capital 1 et Experience Capital 2 qu'on est en train de monter. Mais le 1, on était plutôt sur des marques qui faisaient entre 3 et 7 millions quand on rentre. Donc, ça veut dire que ce sont des marques qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, nous, on fait pas de venture capital. Le venture capital, le capital risque, je le fais à titre personnel. Donc, je dois avoir une vingtaine de tickets. Mais sur une vingtaine de tickets, j'ai déjà perdu tout sur 5. Vous voyez, donc vous mettez 50 000 euros, zéro. 50 000 euros, zéro. Bon, j'ai investi dans Big Mama, ce qui m'a rapporté beaucoup plus. Donc, ils payent le reste. Mais on en est conscient. Et comme disait Guillaume, le contrat, il est clair. C'est-à-dire, on aide une marque à se créer. On ne sait pas si ça va marcher. Si ça marche, bah, peut-être qu'on va toucher des sous. Et ça va payer toutes celles qui ne marchent pas. Mais c'est aussi la beauté du système. Et puis, je trouve que c'est très important pour les gens qui ont un peu réussi d'aider les jeunes créateurs. C'est hyper important, cette notion de transmission.
Ouais.
Ensuite, nous, chez Expérience Capital, on intervient quand on a trois conditions réunies. La première, c'est d'avoir de voir qu'il y a un produit intelligent, bien pricé, bon rapport qualité-prix, lisible, compréhensible, qu'on peut expliquer de suite. Ensuite, il faut qu'il y ait une preuve du concept, c'est-à-dire une preuve du concept digital ou magasin qui permet, un, de comprendre l'ADN d'une marque, l'univers, la communication, de voir si c'est intelligent, de voir s'il y a une histoire derrière cela et de pouvoir calculer une rentabilité et voir si ça peut être rentable et si ça peut être duplicable. Et la troisième condition qui est la plus importante de tout, c'est la fondatrice ou le fondateur. Donc il faut avoir quelqu'un qui a de l'ambition et de l'ego. On est dans un métier où on ne peut pas créer si on n'a pas d'ego. Donc ça sert à rien de fuir l'ego. Il faut des fondateurs qui ont de l'ego parce que c'est ça qui va les sortir du lot. En revanche, c'est mieux d'avoir des fondateurs qui veulent gagner de l'argent. Parce que du coup, quand on veut gagner de l'argent et qu'on a de l'ego, on sait par moment faire les compromis nécessaires. Et nous, une fois qu'on a ça, on se développe. Et quand on regarde et qu'on revient en arrière, finalement, toutes les marques dans lesquelles on est rentré, qui faisaient 3 millions d'euros, 4 millions d'euros, en 2016, en 2019, elles en font 28 à 30.
C'est quoi, dans la personnalité de l'entrepreneur, un deal breaker, un truc qui est vraiment repoussant?
Ce serait quelqu'un qui ment.
Ouais.
Qui cache des choses. Je pense que tout le monde fait des erreurs. C'est pas grave de faire des erreurs. On apprend des erreurs, c'est par principe. Donc j'ai lancé cette ligne de produits, ça n'a pas marché. Bon ben voilà, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Il y a absolument aucun problème avec ça. Quelqu'un qui maîtrise pas ses chiffres, on est quand même dans un métier de beaucoup de retail, et beaucoup de ventes, et il faut maîtriser ses chiffres. Donc il faut savoir connaître sa marge brute, savoir où on va, sa rentabilité. Quelqu'un qui flambe trop. Donc, il veut s'ouvrir tout de suite une boutique rue du Faubourg Saint-Honoré ou sur les Champs-Élysées, alors que il a pas les sous.
Il y a trop d'ego là.
Ouais. Et donc, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui ne sait pas déléguer. C'est souvent le problème qu'on rencontre, des fondateurs qui pensent qu'ils ont réponse à tout. Mais en fait, quand vous regardez aujourd'hui les vrais grands succès, ce sont des succès où vous avez eu à la tête des binômes. Un binôme entre un fondateur, un DG. Et nous, on le voit dans toutes nos participations. Celle qui marche, c'est quand il y a un binôme. Un président et un DG. Et regarde le site français, Guillaume a créé seul, mais je trouve la puissance de cette marque, c'est que Guillaume a su tout de suite s'entourer. Et il a une DG qui est extraordinaire. Non, Pierre-François, je pense que c'est important ça.
C'est extrêmement important que le fondateur arrive à un moment donné à ait envie, au-delà de arriver à, ait envie de partager le pouvoir. Parce que même si on a connu les pires emmerdes, même si il y a évidemment un attachement qui est considérable à la boîte et une peur aussi liée au développement qui va avec et donc une volonté de maîtrise de l'ensemble des process, on ne peut pas grandir si à un moment donné on n'accepte pas de lâcher le pouvoir sur une partie de son activité, parce que le fondateur peut pas continuer à tout faire comme il faisait auparavant. Donc c'est important à la fois de lâcher, mais c'est aussi important de garder là où on est bon, et de garder et d'assumer une position dominante sur l'ensemble du projet qu'est l'entreprise, parce que c'est vous qui l'avez fondé, c'est vous qui l'a piloté évidemment, et c'est pas toujours facile, c'est extrêmement difficile de changer de posture, ça prend du temps, et en vieillissant c'est de plus en plus facile, je pense.
Ouais, et ça c'est tout à fait vrai. Et puis alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'entreprise, c'est pas une démocratie. Ça ne marche pas si c'est une démocratie. L'entreprise, c'est une armée. Il faut un général et un colonel. Le général, c'est le fondateur ou la fondatrice. Le colonel, c'est la personne qui rejoint et qui fait tourner les choses au quotidien. Ce qui est fondamental, c'est pour réussir quand on est fondateur, il faut pas hésiter à lâcher prise pour se redonner de l'air. En fait, un fondateur efficace, quand il peut réfléchir et créer. Finalement, c'est pour ça qu'on a besoin de lui. Et il y a un moment donné où, quand on dirige sa boîte seule, je vous promets, on est tellement sous pression. Moi, il y a des jours, bon, alors, j'ai d'autres sociétés qui me prennent bien la tête, et il y a des jours, mais je regrette quand j'étais le temps où j'étais salarié chez Cartier à 28 ans, parce que finalement, j'avais une bien meilleure vie, je me posais pas de questions. Le soir, j'éteignais mon portable, le week-end, j'allais en week-end, c'était hyper cool. Être entrepreneur, c'est même pas un métier, c'est une vie qui va vous poursuivre tout le temps. Et donc, vous flippez sur tout, vous êtes inquiet, en même temps, vous profitez. Il y a des fois où vous êtes formidablement fier, mais c'est une vraie vie. Et par moment, on est tellement dans l'opérationnel, on est tellement dans la volonté de faire les choses, de contrôler, etc., que on perd la créativité et on perd l'oxygène qui va irriguer le cerveau et qui va nous rendre meilleurs. Et donc, nous, on va toujours, en tant qu'investisseurs, chercher à protéger le fondateur pour qu'il ait cet espace de respiration, parce que quand vous êtes en prison, vous ne créez pas. Et donc, il faut lui donner la liberté pour qu'il crée. Et quand vous avez un fondateur qui non seulement est bien en business, mais qui en plus est intelligent, crée et apporte plein d'idées, c'est formidable. Et la clé pour ça, c'est que les fondateurs qui réussissent, ce sont des fondateurs qui sont fondamentalement ancrés dans la vie. Vous avez votre métier, vous faites de la mode, mais la mode, ça se nourrit de tout. Et donc, vous devez être au courant du nouveau resto qui a ouvert, du nouvel hôtel qui vient d'ouvrir à Williamsburg, du nouveau concept de slow food à Paris. Vous devez être conscient des nouveaux concepts de déco, des nouvelles marques digitales, etc. Parce que finalement, c'est comme quand vous faites du qigong, cette gymnastique chinoise. Vous sentez l'air entre vos doigts, et parce que vous sentez l'air entre vos doigts, vous êtes encore plus en communication avec votre environnement extérieur. Eh bien, nous, on va toujours chercher des fondateurs qui ont cette aspérité, cette imperfection, mais des gens qui fondamentalement sont dans la vie. Parce que s'ils sont dans la vie, ils vont douter tout le temps, et en plus, ils vont sentir quand une tendance change. Et il faut toujours avoir ce moment d'avance pour comprendre où ça va.
Quand on est un fond, c'est quoi le bon timing pour entrer dans une marque?
Alors, il y a plein de sujets là. le bon timing, c'est déjà quand le fondateur le veut. Ça, c'est la première chose. En fait, vous sentez. C'est difficile à expliquer, mais vous sentez à la fois quand le fondateur en a besoin, et vous sentez aussi quand le fondateur a besoin de passer à autre chose. En fait, il faut accepter qu'on vous quitte. C'est comme ça. Et moi, j'étais avec des actionnaires que j'aimais beaucoup, mais à un moment donné, je sentais que c'était le moment de passer à autre chose. Je crois que ce qu'a dit Pierre-François est très juste. Il ne faut pas faire rentrer des fonds trop tôt, parce que, un, ils seront trop gros pour vous, et deux, il ne faut pas lâcher du capital trop rapidement.
Et de toute façon, ça tombe bien, il n'y en a pas beaucoup, de toutes les façons.
Exactement.
Non, mais oui, c'est tout ça, toute la discussion qu'on a, c'est une discussion idéale et qui se passe dans la vraie vie, évidemment, et on a la preuve ici avec Guillaume et les investissements de Frédéric. Mais il faut aussi avoir conscience qu'il y a vraiment peu de fonds aujourd'hui qui, en France, investissent dans des marques de mode. Et quand elles investissent dans des marques de mode, elles n'investissent pas sur des modèles qui peuvent sembler très traditionnels. Donc, des fonds qui investissent dans des modèles wholesale, créateur de mode, ça sert à rien de chercher, il y en a pas.
Ça n'existe plus.
Ça n'existe pas. Donc, c'est très dur à entendre, parce qu'il y a plein de bonnes idées, il y a plein de jolis produits, il y a plein de visions esthétiques qui se développent et qui sont portées par des stylistes, par des fondateurs de boîtes qui sont vraiment géniales. Mais c'est tellement dur de faire de l'argent aujourd'hui dans ce modèle-là, d'aller ensuite revendre, présenter sur de manière saisonnière ces collections pour aller chercher des boutiques qui vont les revendre ou des concept stores, etc. C'est tellement dur, au sens où il y a tellement peu de marge qui reste pour financer justement cette croissance et le développement de l'entreprise, que ça n'intéresse pas les fonds aujourd'hui.
Donc, ça veut dire qu'il faut lâcher l'affaire?
Donc, non, ça veut dire qu'il faut penser d'une manière différente. Ça veut dire qu'il faut se challenger soi-même pour se dire, ben, moi, en tant que consommateur, où est-ce que je découvre les marques aujourd'hui? Sur Instagram. Où est-ce que je les achète? Sur Internet. Donc, il faut rééquilibrer sa vision et donc son modèle économique sur des manières de faire qui sont aujourd'hui beaucoup plus contemporaines et qui drive une croissance beaucoup plus rapidement.
Pour moi, le fond, il rentre quand la stratégie, elle est claire, en fait, et elle est vraiment assumée avec une vraie vision. Et pour moi, aujourd'hui, il y a un peu deux façons de voir les choses, et je pense que le slip fait se rejoindre les deux. La première, c'est vraiment les DNVB, on en a pas parlé, mais Digital Native Vertical Brand. Le meilleur exemple de ça, c'est Cézanne, qui est une réussite magnifique, qui fait 130, enfin, je connais pas le chiffre d'affaires, d'ailleurs, mais la rumeur veut que ça fait 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu le disais, Pierre-François, c'est difficile de gagner de l'argent dans ce métier, mais avec une stratégie très digitale, très très direct to consumer par votre site web ou quelques magasins, une identité de marque très forte, une communauté très forte sur Instagram, arriver à fidéliser les gens, en fait, on arrive avec assez peu de dépenses marketing à créer un cercle très vertueux de gens qui connaissent la marque, une notoriété, une communauté très engagée, qui fait que la marque arrive à émerger et à grandir très vite. Donc ça, c'est une stratégie qui est développée dans pas mal de métiers, qui vient des États-Unis au démarrage, mais qui aujourd'hui commence à être pas mal
mondial, ouais.
Ouais, et qui est avec pas mal de bons exemples en France, dont le slip français, bien sûr. Et là-dessus, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, tout est possible. C'est-à-dire que les grands groupes aujourd'hui savent pas forcément bien utiliser Instagram et ces différents leviers-là. Donc, il y a vraiment des opportunités. Il y a ces fameux boosters pour aller faire grandir sa boîte. Ça, c'est une première, pour moi, vision très claire. Et une deuxième qui est vraiment en train d'émerger. Tu disais, il faut sentir les tendances. Le côté sustainable et mode durable, moi, j'arrête pas d'en parler. Pour moi, c'est une espèce d'évidence devant
moi. C'est un no-brainer,
ouais. Et j'ai l'impression qu'on collectivement, notre industrie, met des plombes, en fait.
Ouais,
parce que c'est
plus
compliqué, parce que ça n'existe pas, parce qu'il faut chercher les filières. Et je trouve ça assez sympa. Il y a un côté un peu druide ou des nicheurs qui est sympa. Aujourd'hui, trouver du coton recyclé pour arriver à fabriquer des produits durables de bout en bout, c'est vachement dur.
C'est très difficile.
Du coup, jeune entrepreneur, allez-y à fond. Et du coup, là-dessus, je pense qu'il y a une nouvelle génération de fonds qui est hyper émergente, qui est même pas encore forcément closée, qui sont les fonds à impact, qui cherchent des boîtes qui ont un vrai engagement, une vraie mission, une vraie durabilité. Et je pense que là, il y a vraiment des boulevards à faire parce qu'on en parlait tout à l'heure. On cite en boucle les quatre mêmes marques. Patagonia, Stella McCartney et quelques autres, mais il n'y a pas encore de vrais bel exemple de mode durable qui arrive à réinventer de bout en bout. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. Le slip arriver à faire un peu les deux, à la fois le DNVB et à la fois le durable. Et c'est un paquet de challenges et de contraintes, mais je pense que c'est en faisant ça qu'on arrive à se démarquer.
C'est là qu'il y a le marché. Ouais.
Deux choses pour compléter l'intervention de Guillaume. La première, c'est que la fédération, elle est là aussi pour aider les marques. Donc, on a publié un site qui est téléchargeable gratuitement sur le site prêt-à-porter.com.
Et qui est très bien fait.
Merci Guillaume. Sur comment améliorer ses approvisionnements durables, comment développer une mode plus responsable. Je vous incite vraiment à regarder ce document qui est extrêmement court, extrêmement... pratique et qui a un joli succès en ce moment parce que ça va aider les marques justement à accélérer, à peut-être rentrer ou développer parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de marques qui font plein de choses super et qui sont sustainable mais qui ne le savent pas. Donc là, ce guide, il a été pensé comme un phénomène d'accélérateur aussi pour que les marques puissent accélérer dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, pour revenir au modèle économique, je veux pas non plus que le message que j'ai fait passer précédemment dise la distribution wholesale c'est terminé, il faut sortir de là. Pas du tout, hein. Même si on est une marque digitale, il faut aller au contact de son client, il faut s'ouvrir, que ce soit via des pop-up, via du retail, via des grands magasins, via une présence dans des concept stores ou dans des multimarques. Il faut vraiment proposer une expérience différente et aller au contact physique de sa clientèle. Et bien sûr, le wholesale, d'une certaine manière, s'il est bien maîtrisé, peut le proposer. Mais il faut pas se laisser avoir par le modèle non plus. Hein. Il faut soi-même maîtriser sa vision et pas se laisser avoir par une myriade de centaines ou de milliers de magasins qui vous imposent votre rythme. C'est pas eux qui vous imposent quoi que ce soit, c'est vous qui leur imposez ou qui développez en tous les cas votre propre vision.
Mais en ce moment, il y a quand même beaucoup de dissonance par rapport à ça, parce qu'il y a encore tous les acteurs, les acteurs historiques qui sont là et qui vous disent mais non, il faut aller sur le wholesale, etc. Et de l'autre côté, il y a les DNVB qui vous disent non, mais le futur, il est là, quoi. Il est pas dans le wholesale. Donc c'est quand t'es un jeune entrepreneur, c'est pas si simple de
non, c'est pas
choix.
Ça. Mais chacun trouve sa voie, je pense. Chacun son modèle. Il n'y a pas un seul modèle unique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut réinventer les modèles parce que simplement les usages des consommateurs ont changé et que ça, personne n'y peut rien. Donc, il faut être conscient du fait que, il y a d'autres manières d'acheter la mode, de découvrir la mode qui existe et que investir dans des modèles classiques, ça n'intéresse pas les investisseurs structurés aujourd'hui.
De toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Le monde a vraiment changé quand même et on peut parler du wholesale, mais quoi qu'il arrive, le digital, c'est incontournable. Donc, ils peuvent faire du wholesale s'ils veulent, mais le digital doit être l'épine dorsale aujourd'hui d'une marque. Le retail, ça permet de raconter une histoire. Et personnellement, je suis convaincu que les seules marques qui perduront, ce sont des marques qui racontent une histoire. C'est-à-dire, le marketing, pour moi, est mort. Donc, les marques qui marchent, c'est des marques avec une vraie écoute history, une histoire, des valeurs, un ADN, qui arrivent à rentrer dans la vie des consommateurs parce que les consommateurs et les clients vont s'identifier à ces marques-là. Et ça, la meilleure façon de le faire, c'est par le digital et par ses propres magasins. Le wholesale vient en complément, c'est important, ça coûte moins cher, etc. Mais Il faut pas se mentir. Il y a un moment donné où il faut maîtriser son image et son histoire, et ça veut dire aller verticalement dans les marchés, notamment par le digital.
Mmh. Moi, je pense que les deux s'opposent pas forcément. En fait, pour moi, on l'a dit depuis le début, c'est difficile d'émerger des nouvelles marques de mode. Il y en aura tout le temps. Donc, l'entrepreneur, le fondateur, il doit se dire comment je fais pour me démarquer. En fait, est-ce que je suis super créatif, qu'est-ce que je peux utiliser. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'est absolument essentiel, c'est gratuit et ça permet vraiment d'émerger. Et aujourd'hui, Instagram, c'est incontournable pour se lancer. Mais aujourd'hui, je pense que les wholesalers vont vous appeler, vous contacter parce qu'ils vous ont vu sur Instagram, en fait. Et du coup, en fait, c'est la marque et le projet qui est au point de départ, en fait. On va pas chercher des wholesalers aujourd'hui sur un salon en étant un énième stand. Enfin, voilà, je pense que c'est difficile d'émerger au Pity, par exemple, pour l'avoir fait pas mal de fois. C'est compliqué quand on démarre, on n'a pas de moyens pour faire un beau stand. Enfin, c'est compliqué, quoi, d'émerger sur ce truc-là. Alors que si on a un compte Instagram qui émerge parce qu'il y a un super produit, une éditoriale très forte et qu'on a des centaines de milliers de followers en quelques mois, bah, là, oui, les wholesalers, ils vont venir à vous, en fait. Donc, vous maîtrisez beaucoup plus le cycle.
Revenons à la levée de fonds. Toi, Guillaume, quand t'as choisi ton fonds, pourquoi t'as choisi ce fonds-là? Experience Capital, d'ailleurs.
On a choisi un autre avant. Donc deux tours de levée de fonds. Donc la boîte avait 3 ans. En fait, nous, on a un peu eu 3 cycles. Le premier, comme je le disais, j'ai beaucoup bricolé, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que le monde a même changé à l'échelle du slip. C'est que quand j'ai démarré, la BPI venait d'être créée. Donc, il y avait pas, tout cet écosystème startup, l'incubateur, Station F, tout ça, ça n'existait pas. Donc, c'est assez dingue, de se dire que tout ça a été créé en si peu de temps. Et pareil, Instagram venait d'être lancé en France. Donc, vraiment, le monde dans notre métier a changé depuis 7 ans. Et le slip, du coup, les 3 premières années, moi, j'étais vraiment en mode bricolage. On faisait tout, on allait au Petit Womo, on bossait avec les galeries, avec le printemps, on faisait une estafette l'été sur les plages. On faisait un peu de web parce qu'on trouvait ça sympa, qu'on faisait un peu de chiffres, mais on n'était pas assumé dans une vraie vision, comme je le disais tout à l'heure, DNVB qui est venu plus tard. On faisait toujours historiquement beaucoup de chiffres d'affaires en ligne, mais c'était pas vraiment assumé, pas une vraie vision. Et du coup, au bout de 3 ans, arrivé à 1,5 million de chiffre d'affaires, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut être une marque qui continue à grandir un petit peu, mais qui se donne pas vraiment les moyens d'aller chercher plus de stock, d'aller ouvrir une première boutique? Est-ce qu'on reste un peu à ce stade-là d'une première histoire, d'un pari qui a bien fonctionné? Ou est-ce qu'on a vraiment envie de se dire, en fait, il y a un message hyper fort dans la marque, cette fabrication française, cette transparence, cette durabilité, on y croit, on a envie de le pousser plus loin et de faire un truc ambitieux? Et on s'est dit, on a envie de tenter le coup, donc on va chercher un fonds d'investissement, mais c'était vraiment un choix assumé. Et du coup, on s'est dit, la vision qu'on porte, c'est vraiment de pousser le digital. Donc, allons chercher des gens qui sont capables de nous aider là-dessus. Et donc, on a fait un premier tour avec 360 Capital Partners qui avait vraiment ce côté DNVB, digital, startup, recruter des gens capés pour vous aider à grandir, dépenser de l'argent en marketing. Donc, on a commencé à dépenser de l'argent au bout de 3 ans et vraiment, on a pris un premier envol très startup en dépensant pas mal d'argent en marketing. La boîte n'était pas rentable à ce moment-là, donc il y avait une vraie prise de risque. Mais en tout cas, dans cette phase, vraiment grandir et essayer de prendre des risques pour voir ce qui peut marcher. Et effectivement, ça a super bien marché. Et du coup, on est allé chercher ECP plutôt dans une troisième phase, donc de se dire, ok, on a été bricoleur au début, on a fait un peu de tout, on est parti sur une vraie vision web qui a bien fonctionné, on voit qu'il y a des fondamentaux cool. Maintenant, il est temps de penser un peu plus à capitaliser, à arriver à structurer, à rendre la boîte rentable et surtout devenir une marque qui sort de ce côté un peu plus Paris web et qui arrive à devenir un peu plus patrimoniale, un petit peu plus institutionnel, avec des boutiques, avec des clients hommes et des clients femmes, avec des clients parisiens, mais des clients surtout partout en France et plutôt ça que des parisiens. Et puis demain, peut-être international, mais de se dire, ok, on passe des caps avec des besoins différents. Et clairement, le tour avec ECP, ça nous a ouvert les portes du retail avec un savoir-faire chez eux qui est inégalé, de se dire, en France, on sait dans quelle ville, dans quelle rue et à quel prix il faut rentrer, sur quel trottoir il faut rentrer dans quelle ville. Donc ça nous a permis de passer de 2 à 16 boutiques en 2 ans, quoi.
Et j'ai 2 questions par rapport à ça. Ces fonds d'investissement, comment on les rencontre? Enfin, ils viennent naturellement à toi parce que tu as de l'attraction naturellement. Et deuxième chose, c'est comment tu te prépares à aller affronter ces gens?
On les rencontre assez facilement dans le cas particulier grâce à Nelly Rodi. J'ai rencontré Frédéric, mais c'est un petit monde, donc je pense que la fédération fait bien les choses. Je pense que c'est un petit monde. En plus, il n'y a pas spécialement beaucoup d'acteurs dans ce créneau particulier, donc il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine de fonds, donc c'est relativement facile. Et avec les autres marques que vous avez autour de vous, vous avez accès à eux assez facilement. Et après, comment se préparer? Donc là, si effectivement, il faut prendre le temps de déjà bien réfléchir à cette vision de où est-ce qu'on va, comment, pourquoi, et de mettre ça, je pense, dans une présentation qui permet vraiment d'arriver un peu musclé une fois qu'on est vraiment on a choisi d'y aller de vraiment arriver avec une strate préparée, écrite, chiffrée et une vision long terme de son projet, et comme disait Frédéric, avec une histoire à raconter, quoi. Et là, du coup, se pose la question, est-ce qu'on le fait tout seul ou est-ce qu'on fait appel à un conseil? Moi, je recommande quand même dans les premières étapes de le faire tout seul. Nous, c'est ce qu'on a fait. Nos deux premiers tours de table, on les a fait sans conseil. Ça permet vraiment, enfin, c'est un peu un passage obligé de vraiment formaliser sa stratégie. C'est un exercice qui prend du temps, mais qui est hyper fructueux à long terme. On pose les bonnes questions, on va chercher les bonnes données. Si on est un métier très digital, comme dans notre cas, on creuse les vrais sujets. C'est important d'avoir des gens autour de vous qui peuvent être vos business angels ou des gens qui vous suivent, comme c'est le cas de Pierre-François depuis le début. Voilà, c'est des gens que vous pouvez avoir autour de vous qui vous aident, vous challenge, vont vous dire bah ça c'est pas bien, ça c'est bien, pour vous aider à structurer votre strat et arriver au moment où on a une discussion plus franche avec les fonds de potentiellement investir. Là, on est plus armé.
Et puis ça envoie les bons signaux aux investisseurs aussi. Si tu vas tout seul.
Bien sûr, c'est hyper important.
En fait, il y a vraiment deux types de marques. Il y a des marques qui sont très sexy avec un fondateur hyper charismatique, et là, c'est plutôt les fonds qui tapent à la porte. Et puis il y a des marques qui sont différentes, et c'est plutôt les marques qui viennent taper à votre porte. Donc nous, en l'espace de 3 ans, on a étudié 550 marques et on a signé 10. Et sur les 10, j'en ai raté une. Donc j'aurais voulu 11, mais il y en a une qui m'a dit non et je m'en suis toujours pas remis. Et sur les 10, il y en a 8 qui sont venus nous contacter. Je pense que la vision claire de la stratégie, c'est la clé. Et en fait, c'est le fondateur qui fait la vente. Et même si le fondateur a des associés, même si le fondateur a des partenaires financiers, même s'il est dans sa série D, E, F, même si ça vaut 2 milliards d'euros, ce sera toujours le fondateur qui fera la différence, et c'est le fondateur qui décide au fond. Parce que aucun investisseur n'achètera une marque s'il n'y a pas un patron ou une patronne à la tête. On n'est pas fou, quoi. On n'a pas, on va pas acheter un bateau sans conducteur. Donc nous, il nous faut un pilote. Et plus le pilote est bon, ben finalement, plus la valorisation va être belle, parce que plus le pilote est bon, plus la marque est belle. Et c'est ça qui est la clé. Et que c'est sûr que quand tout d'un coup vous arrivez, que vous voyez un pilote, un fondateur qui avec son équipe vous présente un truc hyper clair, très simple, contrôlé, et on sent à la fois qu'il sait où il va et qu'il y a énormément d'enthousiasme derrière, c'est facile. Là, on a eu le cas tout récemment sur une marque là qu'on j'espère qu'on va closer dans 3-4 semaines. On l'a piqué à LVMH. LVMH était dessus. On a réussi à rentrer nous sur ce deal, et en fait, on a été bluffé par la nana, mais réellement. Et donc, on s'est dit, allez, on y va. Et là, pour le coup, on sort le chéquier. Mais au bout du compte, on parle beaucoup d'associés, de finances, de trucs. Souvent, les marques ou les fondateurs voient ça presque comme une soumission. C'est une erreur totale. En fait, un associé, un partenaire financier, un investisseur, il y a plein de façons de les appeler. C'est une relation. Et la personne qui gère la relation, c'est le fondateur. Et c'est lui, finalement, qui, à un moment donné, pourra faire comprendre que, allez, j'en étais un petit peu arrivé au bout de nos trucs et qu'il vaut mieux se séparer parce que je voudrais ouvrir aux États-Unis et j'aimerais avoir un partenaire américain ou bien, etc. Et c'est lui qui va dire, bah non, moi j'aimerais que vous restiez encore, c'est trop tôt, on vend pas de suite, c'est vrai qu'on a eu des belles offres, mais on attend un petit peu. Et l'intelligence de ce fondateur et l'intelligence du fonds, c'est ça qui va faire que, finalement, on va choper les stratégies au bon moment.
Ça, c'est une très jolie vision.
C'est ma vision.
Et c'est ta vision, et je sais, et elle est évidemment sincère. Il y a aussi plein d'autres cas où il y a évidemment des batailles. Il y a évidemment des positions qui s'opposent. Il y a des discussions qui sont très franches. Il y a des fonds qui ont une certaine vision du business et des créateurs ou des fondateurs qui ont une autre vision de leur business. Et au départ, on s'entend bien. Au milieu, on s'entend un peu moins bien. Et donc, ça pète. Parfois, on se réconcilie à la fin et parfois, on lâche l'affaire. Donc, les relations entre les fondateurs et les fonds, encore une fois, c'est pas le paradis, hein. Encore une fois, ça peut l'être quand le fit se fait, et c'est ça la très belle histoire. Mais il y a aussi des moments de grande violence, parce que de temps en temps, ça marche pas. Il y a des moments de grande violence au moment de la négociation. Il y a des moments de grande violence une fois qu'on a fait la négociation aussi. Donc il faut pas. C'est pour ça que je viens toujours calmer la vision qu'ont beaucoup de jeunes entrepreneurs qui connaissent pas très bien encore le métier du financier qui va régler tous les problèmes. Pas du tout. Le financier, il est là pour aussi poser des problèmes pour que vous puissiez les résoudre, pour vous challenger, pour vous pousser. Et parfois, ça se fait avec beaucoup de bienveillance. Parfois, ça se fait avec un peu moins de bienveillance. Mais l'objectif, c'est que la boîte et que l'entrepreneur lui-même, il puisse la faire grandir, cette boîte. Et donc, dans ce jeu-là, dans cette discussion-là, ça n'est pas une discussion plane. C'est rarement une discussion plane. C'est rarement une discussion. En tous les cas, quand elle est trop plane, c'est rarement bon signe, en fait. C'est parce que ça veut dire que, en gros, l'investisseur, il a mis de l'argent, mais il n'a pas apporté grand-chose d'autre, quoi. Donc, il a pas obligé les gens à se poser les questions. Et puis, de temps en temps, quand l'investisseur a pris parfois une grosse partie du capital et quelquefois la majorité, là, on peut basculer dans le drame. Parce que l'entrepreneur est dépossédé, parce que les visions s'opposent, parce que le fonds ou le gros business angel qui a mis pas mal de sous pour pouvoir prendre cette grosse partie du capital, ben il s'y retrouve plus, la boîte décolle pas. Enfin, donc il faut aussi s'attendre à des questions conflictuelles, à tout ça. Mais ça fait partie des règles du jeu, ça fait partie de la manière de faire du business aujourd'hui.
Je rebondis, excuse-moi Frédéric, mais je suis d'accord avec Pierre-François, en fait. L'idée, c'est vraiment de revenir au début, de se dire pourquoi est-ce qu'on fait une levée de fonds. Et quand on dit « Ok, on y va », il y a une partie d'ambition, de faire grandir le projet, et forcément, il y a une prise de risque et on lâche une partie de sa boîte. Donc, il faut être conscient de ça dès le départ, et je pense que c'est important de l'assumer et d'y aller vraiment en disant bah, « Ok, je vais prendre du risque, je vais doter de moyens pour aller plus loin, mais forcément, je vais faire rentrer des gens avec moi. » qui vont avoir de l'ambition, qui vont me pousser vers l'avant. C'est aussi ça que je cherche quelque part. Ça sera pas toujours facile. Il y a des moments où on va pas être d'accord, mais je le sais dès le départ. Et pas être dans une vision rose parce que, bah, c'est pas toujours rose. Et voilà, il y a des moments de désaccord, il y a des moments difficiles, il y a des moments de doute. Et je pense que nous, on est dans une histoire où on a déjà bien embrayé et qui durera encore, j'espère, longtemps. Mais voilà, il y a forcément des hauts débats, ça en fait partie. Et Pierre-François a raison de dire que c'est pas tout rose et qu'il faut le faire pour les bonnes raisons dès le départ. Il faut pas le faire parce que ça rassure ou parce que ça fait bien. Il faut le faire parce que on a une vision ambitieuse et qu'on a envie de faire grandir son projet.
Alors c'est vrai que nous, chez Expérience Capital, on est un peu atypique en ce sens où on est des anciens fondateurs. Ouais. Et parce qu'on est des anciens fondateurs, on a eu des très mauvaises expériences. Moi, j'ai eu, grosso modo, mon expérience avec KKR, c'était une souffrance. Pourtant, ça marchait, ça cartonnait, etc. Mais ça n'a pas été des bonnes années. Ça a été des années très dures. Ils me faisaient chier tout le temps. Ils n'étaient jamais satisfaits. Je bossais comme un fou. J'avais plus de vie. Et donc, du coup, on va toujours avoir tendance à nous mettre dans la peau des fondateurs. Et sur certains sujets, par moment, par rapport à d'autres fonds, on est beaucoup plus soft que d'autres fonds. Sur une marque, on a été obligé, parce qu'il y avait plus de cash, ça marchait pas, de convertir du compte courant et donc de diluer le fondateur. C'est-à-dire, on a fait une augmentation de capital qui nous a donné plus de capital. On est devenu majoritaire. C'était pas l'objectif. On l'a fait. Ça a été compliqué. Mais on a trouvé derrière un mécanisme qui fait que dès qu'on retrouve de la valeur, on lui rend du capital. Mais je pense qu'aucun autre fonds ne fait ça. Sans aucun doute, personne ne le fait. Et on connaît avec Pierre-François une autre marque où les fondateurs, qui pourtant sont extrêmement talentueux, ont été très 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 méchamment dilués. C'est-à-dire tout d'un coup, ils ont une part du capital beaucoup plus faible que leur vraie valeur. Ça, et bon, perso, je trouve que c'est des façons de travailler qui sont inadmissibles. Et ce fonds-là est connu pour ça. C'est-à-dire, il va vous encourager à dépenser de l'argent, comme ça ensuite il n'y en a plus, il en met et hop, il prend la majorité. Bon, moi je vois pas les choses comme ça, je suis pas cynique de cette façon-là. Moi j'ai envie que ça réussisse, j'ai envie que tout le monde soit heureux, qu'on gagne tous de l'argent et voilà. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention et le risque, c'est que comme malgré tout dans ce métier il y a beaucoup d'argent en ce moment, les placements rapportent pas grand-chose, les taux d'intérêt sont bas et donc à la limite, c'est pas si dur que ça de trouver 2 millions d'euros. Le problème, c'est que c'est un risque parce que si vous avez 2 millions d'euros et que vous les dépensez, ben, il faut bien réfléchir à comment je les dépense pour faire en sorte que vous créez de la valeur. Parce que dépenser 2 millions en 2 ans, c'est très facile. Et puis vous vous retrouvez dans 2 ans, vous avez claqué 2 millions, sauf que vous avez moins de capital. Et ça, les fondateurs souvent ne le voient pas. Ils sont tellement contents d'avoir 2 millions devant eux qu'ils vont décider d'ouvrir là, de faire ça, de faire ça. Sauf que le bon fondateur, c'est celui qui regarde son compte d'exploitation, qui a sa stratégie et qui sait grâce à cet argent, il va en faire ça. Et grâce à cela, il va créer de la valeur. Et la fois d'après, quand il devra à nouveau lever de l'argent, la valeur aura augmenté. Donc, il préservera sa part du capital. Parce que trouver de l'argent, le cramer, c'est ce qu'il y a de pire.
Et quand on est une marque, enfin moi j'entends souvent quand il y a un fonds qui rentre, il vous fait faire des bêtises parce qu'il vous, en fait le fonds, sa raison d'être c'est quand même de sortir à un moment donné et c'est de gagner de l'argent aussi. Comment on fait pour ne pas se faire bouffer quoi par le fonds?
Ah, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la vie quotidienne de la boîte, sa stratégie, et puis derrière il y a un sujet de sortie. Et je pense que je sais pas si ta question est peut-être un peu sur les deux, mais sur la vie quotidienne, pas se faire bouffer, là je pense qu'il faut prendre sa posture de fondateur. Il faut se dire que c'est au fondateur et à l'équipe de faire tourner la boîte, pas au fonds d'investissement qui rentre, qui peut amener de la valeur et qui peut aider certains sujets. Mais c'est ce que disait Pierre-François, l'investisseur il rentre, il va pas régler tous les problèmes, il va peut-être effectivement en poser d'autres parce qu'il va demander des reporting et des façons de travailler différentes de peut-être ce que vous faites avant, mais l'idée c'est de se dire mais en fait c'est ma boîte, c'est mon aventure, c'est mon truc. Oui, quelqu'un a pris une part du capital, mais il a investi sur moi et mon équipe et il nous fait confiance quoi. Donc d'être capable dans certains moments charnières de dire bah ouais c'est ma décision et soit t'as un problème avec moi et on a un vrai sujet, soit tu me fais confiance et à ce moment-là la décision elle est bonne et on avance. Et je pense que ça c'est au fondateur et à son équipe d'être bien conscient de ça, de se dire c'est avant tout mon aventure, mon projet, j'ai des actionnaires au capital mais faites-moi confiance, c'est moi qui pilote le bateau quoi.
D'où l'importance vraiment de choisir aussi un fonds qui comprend votre business. Parce que voilà, un fonds peut décider de mettre 1 million d'euros dans votre société et puis il va vous dire ouais mais ton DG il est pas bon, donc faut que tu prennes un DG qui va, oui, il va coûter 150 000 euros de salaire, avec les charges sociales on rajoute 75 000, donc il y a déjà 225 000 euros qui ont disparu de la circulation en deux temps trois mouvements, et le type il est surcapé, il sait absolument pas gérer une petite boîte, il vient d'une grosse multinationale où il y a des réflexes de management qui sont complètement différents, donc tout ça il faut faire extrêmement attention au départ. À la question culturelle en fait des personnes, des partenaires avec lesquels on va décider de construire son avenir. Parce qu'effectivement, il y a plein de mauvaises décisions qui peuvent être prises très vite une fois que l'argent arrive et qu'on se dit c'est génial, on ouvre la bouteille de champagne et puis on en ouvre une deuxième, une troisième, une quatrième et puis 6 mois plus tard, on se rend compte qu'on n'a pas de quoi s'acheter un Coca Zéro. Donc faut faire très gaffe quoi. Faut pas se dire que parce que on a fait rentrer un fonds, on a tout gagné. C'est le début d'une nouvelle histoire, c'est le début d'une étape différente de la société. Et c'est le début d'une discussion différente et d'une posture différente pour soi-même en tant qu'entrepreneur.
Oui, il y a deux choses là-dedans. Un, c'est avant de faire entrer le fonds, quand on le choisit et quand on négocie, c'est faire ce qu'on appelle un BP, un business plan, qui est donc la stratégie sur 5 ans. Et en fait, moi, ce que je recommande, c'est de le détailler le plus possible, ce business plan, parce que finalement, ça décrit tout ce que vous allez faire dans les années à venir. Et de vraiment le discuter en amont. C'est-à-dire, moi, je veux développer ça, je veux ouvrir là, voilà ma rentabilité que je veux faire en 2020, 2021, 2022, voilà où je vais. Et une fois qu'on est tous d'accord, quand on signe, on l'annexe à l'acte de vente. Ce qui fait qu'en fait, on peut rien dire. Parce que si le fondateur, il déroule son BP, l'actionnaire ne peut rien dire, vu qu'au départ, il était d'accord avant même de rentrer au capital. Donc ça, c'est un truc qui protège énormément le fondateur, c'est de faire un vrai business plan très détaillé, dont on annexe les grands principes au moment du rachat à l'acte de vente et du coup ça le protège. Et puis la deuxième chose c'est le charisme du fondateur. Moi il y a quand même un paquet de réunions où je dis un truc et Guillaume il me dit alors il a une façon très très gentille de dire non Guillaume, donc dans ces cas-là il te regarde droit dans les yeux en souriant, il dit non mais Frédéric c'est une excellente idée mais je pense que non en fait. Voilà. Mais et donc on le respecte, c'est le boss. C'est pour ça qu'on a signé avec lui. C'est ce qui nous intéresse, c'est son charisme. Et quand je fais l'analogie avec Comptoir des Cotonniers, moi j'ai vendu Comptoir des Cotonniers à Uniqlo, les Japonais. Quand moi je dirigeais Comptoir, les Japonais ne rentraient pas chez Comptoir. Il y avait pas un Japonais chez Comptoir des Cotonniers et je leur disais mais c'est moi qui décide. Donc c'est comme ça, vous voulez on va ouvrir à Dijon, vous voulez une étude de marché, mais je leur envoyais un mail en disant there is only one street in Dijon et c'était réglé. C'était l'étude de marché, mais en tout cas, et du coup, toute l'équipe était très concentrée, ça fusionnait. Quand je suis parti, les Japonais sont rentrés dedans, ils ont mis des Japonais partout, et au bout du compte, ils ont perdu cette saveur. Mais une marque, c'est une saveur, c'est un type de management, et donc c'est ça qu'il faut protéger. Et c'est que le fondateur qui peut le faire.
Très bien. On parle beaucoup de levée de fonds aujourd'hui et c'est quelque chose qui est quand même beaucoup mis en avant. Beaucoup de gens disent que c'est pas une fin en soi, mais pourquoi c'est tant mis en avant alors si c'est pas une fin en soi?
Bah parce qu'il faut beaucoup d'argent pour financer la croissance. Parce que développer une marque de mode qui se développe, ça coûte de l'argent. Et donc, ça n'est pas une fin en soi, c'est certain, mais il faut quand même faire rentrer des sous d'une manière ou d'une autre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les banques sont malheureusement extrêmement frileuses. La fédération continue de rencontrer les grosses banques pour leur expliquer qu'il n'y a pas que le drame du Sentier d'il y a 20 ans qui n'existe plus aujourd'hui, ou le drame de Vivarte de l'autre côté qui a été extrêmement sanguinolent pour beaucoup d'investisseurs, qui a au contraire plein de très belles histoires qui se développent. Le slip en est une, mais on peut en citer plein d'autres sur tous les niveaux de gamme, sur énormément de modèles économiques différents. Ça fait partie de notre job, mais je suis sincère, on a du mal à convaincre. Donc, les banques sont ce qu'elles sont. Il faut trouver des formats alternatifs pour financer cette croissance. Et les fonds, les venture capitalistes, les family office sont des formats différents qui correspondent à différentes étapes de la croissance d'une société.
C'est quoi les KPIs qu'on regarde tout le temps quand on rentre dans une marque?
Chiffre d'affaires, rentabilité, chiffre d'affaires au mètre carré, coût d'acquisition sur le digital, les cohortes, donc la façon de consommer en fonction de ce qu'on met à un moment donné sur plusieurs années, la masse salariale.
Faut clarifier une cohorte, ce que c'est.
Ah bah alors le chef de la cohorte, c'est quand même Guillaume Gibault.
Les cohortes, quand on parle de cohortes, c'est généralement qu'il y a un fonds d'investissement dans la salle. Une cohorte, c'est effectivement regarder dans le temps comment se comportent les clients chez vous. Donc en fait, un client qui est rentré au mois de janvier pour acheter un slip, qu'est-ce qu'il rachète au mois de février, au mois de mars, au mois de décembre, dans toute l'année. Et l'idée d'une cohorte, c'est de regarder comment évolue le comportement de vos clients dans le temps. Donc en fait, un client qui est rentré en janvier 2015... par rapport au client qui a nouveau client qui rentrera dans la marque en janvier 2016, est-ce qu'il a acheté plus ou moins sur son premier panier moyen? Donc est-ce que vous avez agrandi votre gamme, fait des efforts pour vendre dans notre cas par exemple une paire de chaussettes en plus, et puis est-ce qu'il va racheter à la fête des pères ou à Noël? Donc en fait en cours d'année, est-ce qu'il rachètera plus ou moins? Et l'idée, les cohortes magiques, c'est quand vous arrivez à faire monter votre panier moyen, donc le du premier achat, donc la nouvelle personne qui rentre dans la marque rentre avec un panier moyen plus élevé et surtout arrive à réacheter plus élevé encore le panier moyen du deuxième achat ou du troisième, et puis plus rapidement. Donc en fait, est-ce qu'on arrive à faire acheter plus vite et avec un point d'entrée plus haut? Donc c'est une vision dynamique dans le temps du comportement d'achat.
On va regarder la qualité de l'équipe, notamment l'équipe directement N-1 du fondateur. On va regarder la qualité des systèmes d'information, on va regarder comment la logistique est organisée. Parce que très souvent, en fait, les fondateurs de boîtes sous-estiment énormément l'importance de l'information, de l'informatique et de la logistique. Or, c'est la clé aujourd'hui dans notre métier, notamment pour piloter les stocks. On va regarder si les ventes ne sont pas trop concentrées sur un seul produit. Parce que le jour où ce produit marche plus, on est dans la merde. Donc, on préfère avoir des ventes qui sont réparties sur une famille de produits beaucoup plus large ou plusieurs familles de produits. On va regarder également comment le chiffre d'affaires est réparti. Est-ce que c'est sur un seul site? Est-ce que c'est sur plusieurs sites? Est-ce que c'est sur des places de marché? Est-ce que c'est sur un seul pays? Est-ce que c'est sur 2 boutiques, 10 boutiques, etc. Et l'enjeu, en fait, c'est à la fois de mesurer le potentiel d'une marque à se développer, de mesurer la force de la marque dans son organisation, et donc sa pérennité, et aussi de mesurer les risques qui sont encourus si tel ou tel problème se présente sur telle ou telle chose.
Parlons de la fin de l'histoire entre un fonds et une marque. Comment ça se passe concrètement, la sortie d'un fonds? Pourquoi? À quel moment? Quels sont tous les tenants et les aboutissants?
Ils eurent beaucoup d'enfants, ils furent très heureux.
Idéalement.
Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a une partie qui est de l'histoire qui est écrite au démarrage. Après, évidemment, c'est la vie et les aventures font que ça bouge, mais dans le pack d'actionnaires qu'il n'y a pas au moment du Love Money ou des Business Angels, il y a un pack d'actionnaires forcément avec un fonds qui définit une clause de rendez-vous, une clause de sortie. Les fonds ont vocation, c'est écrit dans leur statut, c'est leur façon de fonctionner, de sortir de l'argent à un moment donné. Donc cet horizon de temps, il est entre 5 et 8 ans. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe, mais en tout cas, il y a dans le pack d'actionnaires ce qu'on appelle une clause de rendez-vous qui dit à telle année, les actionnaires, ce que tu disais Frédéric, se remettront autour de la table en disant où est-ce qu'on en est, et les fonds pourront dire est-ce que nous, notre vision par rapport à un deuxième fonds, un troisième fonds qui arrive, est-ce qu'on veut sortir, est-ce qu'on veut rester? Mais en tout cas, il y a des clauses de rendez-vous prévues dans le pack, donc il y a des moments où on posera ouvertement la question sur la table de dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on reste, et je reviens encore une fois au truc depuis le début de dire la levée, encore une fois, fois, on sait pourquoi on l'a fait, on fait rentrer des actionnaires financiers, on sait dès le départ, c'est pas une surprise qu'à un moment donné, ils voudront ou pas sortir, mais en tout cas, il y a un moment donné, on se posera, on mettra la question sur la table.
Il y a Onassis, sa devise, c'est j'ai gagné de l'argent parce que j'ai toujours vendu trop tôt. Et ça vaut pour les fondateurs et ça vaut pour les fonds. En fait, bien souvent, la sortie est non sollicitée. Vous avez un jour quelqu'un qui va appeler le fondateur et qui va lui dire « j'aimerais rentrer au capital ». Et parce qu'il veut rentrer au capital alors que c'est un peu tôt, bah il va mettre plus de valorisation pour préempter le sujet par rapport aux autres, pour pas aller dans des enchères, etc. Et puis le fondateur va se dire « putain, j'adore cette personne, j'adore ce fonds, et c'est vrai que c'est un fonds qui va m'apporter telle ou telle ou telle chose que je n'ai pas aujourd'hui, et ben j'ai envie de le faire ». Et à cette occasion-là, en plus, je vais pouvoir mettre un peu de sous de côté, et donc je suis content. Et donc derrière, bah, il vient voir le fond, il dit, bah, moi j'aimerais faire une sortie, je sais que c'est un peu tôt, j'aimerais que vous me suiviez. Bon, bah, derrière, on calcule, on regarde, et il y a un côté qui est très réel politique. Il faut être réaliste. L'enjeu, c'est on peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. C'est comme ça, vous avez beau l'aimer, si vous aime pas, il vous aime pas, quoi. Là, c'est pas la question. La question, c'est juste que si tout d'un coup, il en aime un autre, faut accepter parce que c'est le métier des affaires et c'est comme ça. Je pense que, comme le dit Guillaume, on sait tous que quand un fonds rentre au capital, il va rester 4-5 ans. Pour la plupart du temps, c'est ce qui va rester. Donc par moment, c'est 2 ans, 3 ans. Par moment, c'est 7 ans quand la marque est un peu plus lente ou que tout ça se passe parfaitement bien. Voilà, ça fait partie du truc. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Ce qu'il faut, c'est le faire en bonne intelligence et surtout, il faut le faire avec une grande gratitude. Autrement dit, il faut que le fonds, à un moment donné, comprenne que pour le fondateur, c'est le moment. Et donc, il faut accepter de passer la main, même si on n'a pas eu la valo qu'on voulait. Mais il faut quand même une valo suffisante. Et puis pour le fondateur, bah, c'est aussi trouver un deal qui fait que ceux qui lui ont fait confiance avant bah, vont sortir heureux. Et pour nous, c'est vraiment comme ça qu'on voit un très beau fondateur, hein, c'est un message, mais c'est comme ça qu'on voit un très très bon fondateur, c'est celui qui sait que le deal va rendre heureux le fonds. Moi, quand j'étais chez SMCP, tous mes fonds sont partis heureux. Et donc du coup, je sais pas, c'est dans mes veines. Je sais que c'est tellement plus simple d'avoir des bonnes relations que je vais construire un deal qui va faire que tout le monde est heureux. Ce qui veut pas dire que je préserve pas mes intérêts, hein, je sais le faire.
Très bien. Moi, j'avais une dernière question, enfin une avant-dernière question. Là. Quand on était sur la partie quand le fond est dans la marque, concrètement, ça fonctionne comment? Enfin, quand on parle de gestion, d'outils informatiques, de supply chain, de prise de décision, c'est que vous rencontrez les associés, enfin l'équipe du fondateur, etc. Vous y allez physiquement dans la boîte pour voir comment ça se passe, etc. Ou c'est uniquement autour d'une table et on échange comme ça?
Peut-être que je dis le cas global et tu rebondiras peut-être sur le cas particulier de CP, mais un fonds est un actionnaire qui participe à différents moments de la vie de la boîte, mais qui est globalement assez, en tout cas physiquement, peu présent.
Ouais.
C'est quelqu'un qui est à dispo quand vous voulez par téléphone ou le format que vous voulez pour vous donner des conseils, mais sinon, ce qui est structuré, ce qui existe, c'est en général un reporting financier qui est soit un envoi toutes les semaines de certains KPIs, évidemment le chiffre d'affaires, genre de choses, et peut-être une version plus consolidée mensuelle de rentabilité, de clôture comptable mensuelle, mais globalement, c'est pas énorme ce reporting financier, c'est plus bah voilà, pour avoir les infos un peu mises à jour. Et après, il va y avoir des boards qui sont en général les principaux points de contact entre la marque et ses investisseurs. Les boards peuvent être soit quand il y en a beaucoup tous les 2 mois, quand il y en a un peu moins tous les trimestres, c'est l'ordre d'idée. Et là, un board, bah, c'est une session de travail de 2 heures, 3 heures. Où on présente les métriques et les projets en cours. Donc, il y a un ordre du jour qui est établi à l'avance et tout le monde se retrouve pour discuter de la stratégie de la boîte, où est-ce qu'on va, les sujets chauds et tout ça. Et en général, on sort assez peu de ces deux cas, le reporting hebdo ou mensuel et les boards. Et normalement, ça suffit à piloter la boîte et à laisser l'équipe aux manettes d'arriver son business, quoi. Donc, dans le cas, en général, c'est comme ça que ça fonctionne.
Il y a un point de rendez-vous qui est fondamental, c'est le budget. Donc c'est le board de décembre qui va valider le budget de l'année d'après. Et dans le budget de l'année d'après, c'est un budget qui est extrêmement détaillé. Donc dans ce budget-là, on valide la stratégie commerciale, où est-ce qu'on ouvre, combien de boutiques, comment je développe mon chiffre d'affaires sur le digital, est-ce que j'ouvre un nouveau pays, etc. Il y a aussi mes investissements marketing, combien je vais mettre en acquisition de trafic, combien je vais mettre sur Facebook, sur Insta, combien je vais mettre sur mes concepts magasins, etc. Ensuite, il y a les ressources humaines, qui je recrute. quelle masse salariale supplémentaire je crée. Il y a tout ce qui est production, comment je travaille ma prod, quel est mon coefficient d'entrée, quel est mon taux de démarque moyen, comment je vais gérer mes stocks. Il y a tous les autres investissements sur changer l'informatique, sur améliorer la logistique, sur etc., etc. Et finalement, ce budget qui est très, très détaillé, c'est la feuille de route de l'année d'après. Et donc là, pour le coup, on a une vraie discussion. Généralement, en fait, c'est un aller-retour. On a deux allers-retours. On a une première version qui, la plupart du temps, est refusée par l'actionnaire, mais ce qui est normal, ça fait partie du jeu. Et ensuite, on a une deuxième version qui est stable. Et du coup, une fois que ce budget est validé, le fondateur, il a toute l'attitude pour dérouler son truc. Nous, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il délivre son truc. Ensuite, tous les trois mois, on a un board dans lequel on va adapter la stratégie en cours d'année parce que, il arrive que janvier soit moins bon que prévu, etc., etc. Et donc, on ajuste. Mais le fonds n'a pas vocation à gérer pour la Marx. Nous, on achète un fondateur, on achète une équipe, on leur donne les clés. Chez Expans Capital, on est un tout petit peu différent en ce sens où on a 15 experts avec qui on a construit le succès de nos marques précédentes qui nous ont suivis et donc qui sont à disposition des fondateurs, mais ils sont réellement à disposition. Donc c'est Guillaume qui dit « Tiens, j'ai un sujet là-dessus, est-ce que tu peux m'envoyer telle personne pour qu'il regarde et donne son avis ?» Mais au final, c'est le fondateur qui décide et c'est le fondateur qui déroule. Pour moi, donc le vrai sujet, c'est le budget annuel. Parce que c'est ça qui définit tout. Et puis ensuite, on a des boards qui généralement se passent très bien. Ça dure un maximum de 2 heures. Et on essaye de se concentrer sur les vraies discussions et la stratégie.
Mais ça, c'est propre à Experience Capital ou c'est globalement?
Non, c'est tout le monde. Ouais. Tout le monde valide le budget et tout le monde a des boards. Ensuite, ça se passe plus ou moins agréablement. Et puis, il y a aussi des boards qui sont plus ou moins, je le vois, parce que moi, je fais partie d'autres boards sur d'autres marques qui sont pas dans notre portefeuille. Bon, il n'y a pas vraiment de discussion, en fait. C'est un relevé des compteurs. Le fondateur arrive, il présente ses chiffres. Ok, très bien, merci. On te fait une petite tape sur la nuque et tout le monde va bien. Bon, nous, comme on comprend fondamentalement ce métier, il y a beaucoup plus de discussions stratégiques. Et c'est intéressant parce qu'on accepte que les gens ne soient pas d'accord. Enfin, la contradiction fait partie du truc. Sinon, vous avez tout le monde qui fait tout pareil. Mais voilà, la vie d'une entreprise, c'est ça. C'est un budget et 4 boards dans l'année, quoi.
Très bien. Alors, on va conclure hein, parce que c'est l'heure. Je dois vous libérer. Juste en dernier petit tour de table, comment vous voyez les choses évoluer là, le marché de la mode et le marché de l'investissement en tout cas dans la mode. Comment vous voyez les choses évoluer dans les années qui viennent, enfin dans les mois et les années qui viennent.
Je pense que tout le monde n'est pas Rihanna. Donc, on peut pas tous créer Fenty avec LVMH du jour au lendemain avec des milliards de dollars à disposition. Moi, je crois que les gens devront toujours s'habiller et la mode restera toujours présente partout parce que c'est un produit d'émotion. Et je pense que plus on va globaliser les marchés et plus les clients vont avoir besoin d'une émotion ancrée localement. Et donc, je suis convaincu que l'avenir verra toujours autant l'émergence de jeunes marques. Et peut-être plus qu'avant, parce que finalement, je pense que les réseaux très concentrés de 200 magasins en France, comme on a pu le faire chez Comptoir et chez Sandro, c'est terminé. Zara continuera à le faire sur du mass market. Mais sinon, les clients ne veulent plus ça. Ils veulent des marques auxquelles ils vont pouvoir s'identifier, qui sont porteuses de valeurs, dans lesquelles ils se reconnaissent et qui amènent du sens à leur vie. Et je suis totalement d'accord avec Guillaume sur le fait que tout ce qui est sustainability, développement durable, développement raisonné, sourcing raisonné, c'est la clé. C'est très 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 difficile à mettre en œuvre et bien souvent on est assez seul pour mettre ça en œuvre. Mais pour moi, c'est la clé. Et donc, les marques qui marcheront demain, ce sont des marques qui raconteront une vraie histoire ancrée dans des valeurs, dans leur histoire personnelle, et ce seront des marques qui sont incarnées par le fondateur. C'est fondamental. Donc, on n'arrivera plus à sortir comme ça une marque qui du jour au lendemain sort de trucs. Parce que ça durera 2 saisons et ça s'éteindra. Je pense que les marques qui dureront sont des marques qui apporteront un vrai contenu de marque qui n'est pas inventé. Ensuite, le marché a changé. Il faut que les marques changent avec le marché et adaptent leur distribution. Mais il y aura toujours cette envie d'être beau, de se faire plaisir. Et la mode, ça quand même, ça nous définit. On est habillé tous les jours. Donc, moi, j'ai un pull bleu et un jean. On peut pas faire plus classique. Mais n'empêche, c'est moi.
Très bien. Guillaume?
Moi, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, je pense que le côté durable, et c'est vraiment une vague de fond. Et je pense que notre métier va profondément changer dans les 5-10 prochaines années, comme c'est le cas dans la cosmétique ou dans la food avec des applications comme Yuka. Il y a des applications qui arrivent sur la mode pour Good on You ou Close Parency. Donc, c'est vraiment un bouleversement et une reprise de pouvoir du client qui, à tout moment, peut avoir la vraie info transparente d'où vient le produit qu'ils consomment. Et je pense que ça va bouleverser encore plus que le shift digital retail qui a déjà bien secoué notre métier. Et là-dedans, bah, qui dit bouleversement dit opportunité. Et bah, je pense que c'est une époque assez dingue pour inventer de nouvelles marques, prendre à bras le corps ce parti pris qui, en plus de ça, je trouve, a quand même ce charme fou d'être un truc très cool à faire, quoi. De se dire, en fait, on va créer des marques qui changent le monde, qui font des choses hyper positives, qui ont un impact positif sur l'environnement, les gens et tout ça. Et je trouve que ça donne beaucoup de sens. Donc, en fait, au-delà d'être un produit d'émotion, et je rejoins Frédéric, la mode, je pense, existera toujours. Il y a, je pense, aussi de plus en plus de nouvelles marques, mais je pense que on peut faire quelque chose qui a du sens et qui donne envie. Et je trouve que c'est très français. Moi, il y a un truc, une bible que j'aime beaucoup et j'encourage tout le monde à le lire à chaque fois, c'est la plateforme de la marque France qui est dispo en ligne, qui définit les trois actifs clés d'une marque française. C'est 1, l'amour des gestes et des savoir-faire. 2, la capacité à penser et à initier. Et 3, l'art de la surprise. Et je trouve que bah, si on prend à bras le corps ce côté durabilité, qu'on met des réseaux sociaux là-dedans et qu'en plus, bah, on a la chance d'avoir, je pense, pas mal d'argent dans le marché, on peut créer des, non pas des petites choses, mais des vrais trucs ambitieux qui font référence dans notre métier. Et il n'y a pas de raison qu'on cite toujours Patagonia. Voilà, inventons celui qui sera cité de partout dans le monde, quoi.
Alors, beaucoup d'argent sur le marché, oui. Encore une fois, peu d'argent sur le marché de la mode aujourd'hui. Et je pense que ce qui évoluera dans les années qui viennent, c'est que beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent grâce à la mode vont être extrêmement pressurisés par leurs clients sur le fait qu'il va falloir rendre justement dans ce milieu-là, qu'il va falloir réinvestir, qu'ils réinvestissent une partie de l'argent qu'ils ont gagné dans ce système de la mode pour lui permettre de se régénérer plus vite, etc. Puis la deuxième chose, je pense, qui est vraie aujourd'hui et qui le sera encore plus demain, c'est que aujourd'hui on a parlé d'un état des lieux, de la manière dont ça se passe aujourd'hui, mais dans 3 ans peut-être qu'il y aura un nouvel Instagram qui changera tout, peut-être qu'il y aura effectivement ces choses que l'on voit plus que poindre aujourd'hui sur le développement durable, bien sûr, mais il y aura des bouleversements technologiques, il y aura des nouveaux usages qui vont aller avec, et donc c'est extrêmement important que les entrepreneurs de mode restent les doigts dans la prise. Donc passer du temps au café le matin ou le soir à prendre un verre et partager une bière avec des gens qui vont vous donner des opinions sur vous-même et des opinions sur le marché, c'est toujours extrêmement important pour ces entrepreneurs de rester très ouverts, d'être à la fois très axés sur eux-mêmes, leur vision, de savoir où ils vont. Mais pour les aider à savoir où ils vont, il faut vraiment continuer à être ouvert sur le monde, à discuter, à être ouvert sur ce monde qui change, parce qu'il change à la vitesse de la lumière.
Et il faut voyager. Il faut aller à Tokyo, à Harajuku, il faut aller en Corée du Sud, il faut aller à Londres, il faut aller à New York, à Los Angeles, au Brésil. Et là, j'étais à New York la semaine dernière. Je suis estomaqué du développement d'un nouveau segment qui s'appelle l'activewear, qui est un segment par usage, en fait, autour des personnes actives ou qui font du sport, etc. Mais c'est des marchés qui sont gigantesques et qu'on adresse assez peu, nous, en France, parce qu'on a encore une vision de la mode qui est une vision, par moment, un petit peu élitiste, mais tout le monde n'est pas Jacquemus, quoi. Donc, il faut aussi voyager et s'apercevoir qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire, que d'autres ont déjà faites, mais qu'on peut faire, nous, localement, à notre échelle, et qui sont porteuses de fierté et de rémunération.
Très bien. Eh ben, merci infiniment à tous les trois.
Merci Adrien.
Merci.
Et à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cette série sur le financement des marques de mode créée et produite en partenariat avec la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Suivez toute l'actualité de la Fédération en vous abonnant à son compte Instagram @fédérationPAP et sur le site internet de la Fédération www.prêtaporter.com.